7h, 9h.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 15 janvier, top départ pour le grand débat national. Emmanuel Macron est attendu cet après-midi dans l'heure pour donner le coup d'envoi de cette grande consultation populaire. Alors, à quoi va-t-elle ressembler concrètement? Grand débat, mode d'emploi, c'était le journal de 7h avec Hélène Zélani. 7h40, Jean-Michel Apathy décortiquera les thèmes abordés dans ce grand débat et ceux qui manquent cruellement. 7h45, une expérience. Celle de Joe Spiegel, maire de Kinersheim, dans le Haut-Rhin, une petite commune pionnière de la démocratie participative. Il nous dira comment ça marche. 8h15, l'interview politique d'Audrey Caspomara avec la secrétaire d'État à l'écologie, Emmanuelle Wargon. C'est elle qui est chargée de copiloter ce grand débat. À suivre également dans la matinale, direction le Royaume-Uni qui attend aujourd'hui un vote décisif au sujet du Brexit. Ce sera à 7h20, dans Repas va plus loin. Et puis à ne pas manquer ce matin, le récit d'un entretien exclusif avec le patron de Nissan, Hiroto Saikawa, les dessous de l'affaire Carlos Ghosn, l'avenir de l'alliance Renault-Nissan. Rendez-vous à 7h15 avec Nicolas Barré qui rentre tout juste de Tokyo. Voilà pour le programme, vous savez tout, ou presque. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien réveillés? On est là pour vous jusqu'à 9h, c'est parti. Bon réveil à l'écoute d'Europe 1.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce mardi 15 janvier. Bienvenue à tous, il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nicolas Aliagas.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La parole aux Français, le grand débat est donc lancé officiellement par Emmanuel Macron cet après-midi. Nous irons à Nantes où il a déjà commencé sous la direction d'une députée de la majorité. À Londres, la parole aux députés britanniques. Ils vont devoir dire yes or no à l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles. Theresa May a très peur d'un no. Et puis on va continuer en anglais. Le remake du film Intouchable vient de sortir aux États-Unis sous le titre The Upside et c'est un carton malgré des critiques mitigées.
Europe 1.
Rendez-vous donc à 15h dans le gymnase de la petite commune de l'Eure qui va attirer tous les regards, tous les micros et caméras, Grand Bourterould. C'est là qu'Emmanuel Macron va rencontrer 600 maires normands et lancer le fameux grand débat. Certains n'ont pas attendu, comme à Nantes où un premier atelier était organisé hier soir avec 4 thématiques, fiscalité, transition écologique, organisation de l'État et citoyenneté, une centaine de participants, quasiment autant de points de vue. Petit avant-goût de ce qui risque de se passer un peu partout en France avec François Coulon.
Une centaine de participants venus de tous horizons autour de 10 tables rondes au micro des députés LREM Valérie Opelt.
L'objectif est de construire tous ensemble et d'apporter des solutions à la colère des derniers mouvements.
Top départ à la table fiscalité et dépenses publiques.
La famille Muliez, ils ont un pied en Belgique et ils vont travailler à Roubaix, prendre l'oseille. Ça, faut arrêter.
Il faut garder les riches en France. C'est eux qui dépensent ce pognon, qui nous font vivre un petit peu. Faut pas les faire partir.
Quand on parle économie, faut déjà voir où il y a la fraude. Les arnaques aux dents, aux lunettes et tout ça.
Non, mais arrêtez les gars, vous n'arrêtez pas de couper, on peut pas en placer une. Écoute, si tu continues, moi je quitte la table parce que soit on s'écoute, soit on s'écoute pas.
Une heure et demie de cogitation et un premier bilan, le gilet jaune David Tan.
Très bon débat. On a tous compris qu'il faut aller maintenant de l'avant pour trouver des solutions pour le pays français. On a été entendus et la députée va remonter ça.
Côté chef d'entreprise, on est beaucoup plus sceptique, Jean Garros.
Les idées sont confuses, ça part un peu dans tous les sens. Je ne sais pas ce qu'on en ressortira de ce bazar-là. C'est une cacophonie. L'État ne peut pas tenir compte de chacun de nous. C'est ingérable.
La députée l'a promis, le match n'est pas fini. Il y aura très rapidement une deuxième manche. Nantes, François Coulon, Europe.
À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 mars, nous sommes donc tous appelés à participer au grand débat. Le gouvernement espère qu'un maximum de Français vont jouer le jeu. Comment faire pour participer, Aurélie Herbemont?
D'abord, il y aura des réunions locales que les maires, voire les associations, pourront décider d'organiser. Des citoyens peuvent aussi se lancer en prévoyant une réunion dans leur quartier. Pour les aider à animer ces débats, le gouvernement a prévu un mode d'emploi qui sera disponible en ligne. Des stands pourront également être installés dans des lieux de passage, comme les gares. Et à partir du 21 janvier, un autre lieu de débat virtuel, celui-là, sera mis en route. Le site internet granddebat.fr, où chaque Français pourra poster directement ses contributions, contributions qui pourront aussi être envoyées par courrier à la mission du Grand Débat. Et histoire de diversifier les points de vue, à partir du 1er mars, des citoyens seront tirés au sort dans chaque région pour débattre des propositions qui auront été mises sur la table, sans qu'on sache pour l'instant dans quelle mesure le gouvernement en tiendra compte.
Aurélie Herbemont, sachez aussi qu'un numéro vert est mis en place, le 0800 97 11 11. Ce grand débat sera animé par deux ministres, Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon.
Et la secrétaire d'État à la transition écologique qui sera l'invitée d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 sur Europe
1. Par ailleurs, 5 garants seront nommés pour garantir l'indépendance de l'exercice. On connaîtra leur nom vendredi. Pour clore ce chapitre, sachez que des mesures de sécurité très conséquentes sont prévues pour la venue du chef de l'État à Grand-Bourterould. Les Gilets jaunes de l'heure ont déjà annoncé leur intention de lui préparer un comité d'accueil. Et donc, seuls les habitants et les personnes travaillant en ville auront l'autorisation d'entrer dans le périmètre de sécurité. Europe 1, il est 7h04.
L'affaire avait fait grand bruit il y a près de 5 ans. Les assises de Paris jugent depuis hier deux policiers accusés de viol sur une touriste canadienne.
Oui, les faits s'étaient déroulés dans les anciens locaux de la PJ au 36 quai des Orfèvres lors d'une soirée très alcoolisée. Hier, les deux accusés ont pu s'exprimer. Chloé Triomphe assistait à l'audience pour Europe 1.
Je plaide non coupable. Comme dans un feuilleton américain, l'un des deux anciens policiers de la BRI, aujourd'hui accusé de viol, profite de ce bref temps de parole donné par le président en toute fin de journée. Il reconnaît une relation consentie, mais il nie le viol, même positionnement de la part du deuxième policier à la barre, la gorge manifestement nouée par l'émotion. Ce dernier trouve des mots plus intimes. On nous a affublés d'un costume d'horreur que j'exècre. Jamais je n'aurais pu faire une chose pareille à cette dame, ni à n'importe quelle dame, dit-il. Lui aussi reconnaît plusieurs gestes sexuels consenti, mais il affirme qu'il n'a jamais fait ce dont la touriste canadienne l'accuse, lui et les autres, c'est-à-dire des viols avec violence dans les locaux du 36 quai des Orfèvres. La jeune femme assise au premier rang reste imperturbable. Elle a totalement changé de look et porte désormais des cheveux très courts à la garçonne et bruns. Elle sera entendue mercredi matin sur sa version de cette soirée d'avril 2014, un moment crucial d'audience tant les versions s'opposent, un moment très difficile aussi selon ses avocats qui ont finalement renoncé à l'idée de demander un huis clos.
Chloé Triomphe. Et puis l'attentat contre le marché de Noël de Strasbourg qui avait fait 5 morts le 11 décembre dernier. Selon Le Monde et France 3, l'enquête montre que le terroriste Chérif Chekat avait prémédité son acte. Il cherchait des armes depuis plusieurs semaines et il y a déjà plusieurs mois, il avait dit à sa mère qu'il avait l'intention de mourir.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal. On va partir en Angleterre avec l'accord du Brexit qui se joue ce soir à la Chambre des communes à Londres. A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Europe 1.
Votre peau est sèche, rouge et démange. Et si c'était de l'eczéma? Des solutions existent. Rendez-vous tout à l'heure avec le docteur Michel Sayag, médecin allergologue au sein du laboratoire Bioderma. Bioderma protège les peaux sèches et bien plus. Bioderma, une marque Naos. Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zelani et les Anglais aiment dire « it's make or break ». Ça veut dire « ça passe ou ça casse », c'est le vote historique au Parlement britannique ce soir.
Oui, les députés de la Chambre des communes se prononcent sur l'accord de retrait de l'Union européenne. Selon la presse anglaise, un député conservateur sur trois s'apprête à le rejeter. Hier, Theresa May a multiplié les interventions pour tenter d'éviter une défaite à Londres. Anaïs Cordoba.
Theresa May s'est d'abord adressée au peuple britannique et son auditoire n'a pas été choisi au hasard. C'est dans une usine d'un bastion pro-Brexit du centre de l'Angleterre que la Première ministre a mis en garde les députés récalcitrants une nouvelle fois.
La confiance du peuple dans la démocratie et dans ses représentants pourrait être ébranlée de manière catastrophique. Nous avons tous le devoir de mettre en œuvre le résultat du référendum.
Des mots qui n'ont pas empêché la rébellion de se poursuivre chez les conservateurs avec la démission publique d'un député en charge de la discipline du parti.
Nous avions espoir que la Première ministre obtiendrait des changements significatifs à l'accord quand elle est retournée à Bruxelles avant Noël. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Moi, je ne peux pas soutenir cet accord car il ne respecte pas le résultat du référendum.
Après une allocution chahutée à la Chambre des communes, dernière tentative en fin de soirée, dans l'une des antichambres du Parlement, à l'abri des regards, Theresa May s'est adressée à ses députés. Seront-ils au moins quelques-uns à se laisser tordre le bras? Si son accord était rejeté par plus de 139 conservateurs, ce serait la pire rébellion contre un Premier ministre britannique aux communes depuis près de deux siècles. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et si les députés se prononcent en faveur du texte, le Brexit entrera en vigueur le 29 mars avec une période de transition jusqu'à la fin 2020. Vote prévu à partir de 20h hors de Paris.
Aux États-Unis, le film est sorti sous le titre The Upside et c'est l'adaptation du grand succès qu'on connaît tous en France qui s'appelle Intouchable.
Oui, il y a plus de 7 ans, il avait rassemblé 20 millions de spectateurs chez nous aujourd'hui. Il continue donc sa carrière de l'autre côté de l'Atlantique où il est même en tête du box-office malgré des critiques mitigées et un début de polémique. Vous êtes allé le voir pour nous, Xavier Yvon.
Le millionnaire tétraplégique habite dans le très chic Upper East Side. Son improbable aide-soignant vient du Bronx. Les Yankees ont remplacé le PSG dans les dialogues. Ça se passe, vous l'avez compris, à New York plutôt qu'à Paris. Et pour le reste, le film est quasiment une copie conforme, avec des scènes parfois identiques. Mais le riche blanc et le pauvre noir qui se lient d'amitié grâce à l'opéra et un joint, c'est cliché selon une partie de la critique américaine. À la sortie d'une salle de Brooklyn, pourtant, les spectateurs, eux, sont très positifs. C'est inspirant, encourageant. C'est une bonne manière d'apprendre à traiter autrement les handicapés. Et à ce propos, autre polémique très américaine, certains regrettent qu'on n'ait pas choisi un acteur vraiment handicapé plutôt que Bryan Cranston, la star de la série Breaking Bad. La sortie du film a aussi été retardée par l'affaire Weinstein, qui en était le producteur. Malgré tout cela, le remake d'Intouchables a fait deux fois mieux que prévu pour son premier week-end en salle. Il est en tête du box-office avec 20 millions de dollars de recettes. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
The Upside, pas encore de date de sortie en France.
Hélène Zélani, c'est la voix du 7h sur Europe 1. Merci Hélène.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Et à 7h10, on part retrouver Martin Fenot quelque part en France.
Vous y êtes tous ce matin, Martin. Bonjour.
Bonjour, je suis devant le centre de contrôle de la ville la plus vidéo protégée de France. Je suis à Nice et c'est 2300 caméras.
Ouf.
Parce qu'ici, on mène des expériences étonnantes. Imaginez une caméra dotée d'une intelligence artificielle qui peut repérer une agression avant même qu'elle ait eu lieu. C'est ce qu'on appelle un détecteur d'humeur. Ça lit les émotions sur les visages comme la peur. Et ça va bientôt être expérimenté ici, dans le tramway niçois.
C'est incroyable cette histoire, c'est de la science-fiction, quoi.
Oui, et il n'y a pas que ça. Imaginez encore une caméra qui peut identifier les passants dans la rue. Comme ça, en une fraction de seconde. On parle là de reconnaissance faciale.
Big Brother is watching
you. Exactement, ça pourrait servir à localiser les individus recherchés par la police ou des personnes disparues. Écoutez, Franck Curinga, c'est lui qui travaille sur cette technologie depuis 2 ans et demi.
On peut imaginer une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer qui est recherchée au sein de la ville de Nice. Et ces outils-là permettraient également donc d'intégrer la photo de la personne recherchée à l'intérieur du système de vidéoprotection de la ville et permettraient de retrouver cette personne-là plus rapidement.
Et ils en pensent quoi, Martin, les Niçois, de ces nouveaux systèmes de vidéoprotection testés dans leur ville, justement ?
Ils sont partagés, hein, à l'image de Georgette et Robert, un couple de retraités qui se questionnent, vous allez l'entendre, au sujet de la reconnaissance faciale.
Moi, je suis contre.
Pourquoi ?
J'ai pas envie que les gens sachent que ce que je fais, où je vais, ça les regarde pas.
C'est une sécurité comme une autre, hein, parce que ça permet, quand il y a eu des bagarres ou n'importe quoi, par la reconnaissance faciale, on peut savoir qui a tapé, qui a fait des dégradations.
Oui, pour certaines choses, oui, mais pas tout le temps.
Oui, c'est un peu un délit de faciès. Est-ce que ces technologies futuristes, on les verra bientôt dans d'autres villes, Martin, c'est prévu ?
Alors d'abord, elles ne sont pas toutes au point. Et puis, utiliser la reconnaissance faciale, par exemple, c'est interdit par la loi. Nice milite pour que ça change, alors que plusieurs grandes villes veulent essayer cet outil, comme Marseille, qui va mener sa propre expérimentation à l'entrée de 2 lycées dans les prochaines semaines.
Martin Fenot était à Nice ce matin, ville à la pointe de la recherche sur la reconnaissance faciale. On l'aura bien compris, vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours sur Europe 1, à 7h10.
Europe 1. Et les 7h12, restez avec nous sur Europe 1, suivre Nico Saliagas.
L'édito écho, évidemment, avec Nicolas Barré. Vous venez de faire un aller-retour à Tokyo, Nicolas.
Exactement.
Vous êtes resté combien d'heures à Tokyo ?
Oh, 72 heures.
Pour faire quoi ?
Pour aller voir le patron de Nissan dont je vais vous parler, le tombeur de Carlos Ghosn.
Vous étiez en face à face avec lui en entretien ?
Tout à fait.
7h20, Europe 1 va plus loin, on va partir à Londres. Tout se joue ce soir sur le Brexit. Tokyo, Londres, on voyage ce matin sur Europe 1, à tout de suite.
7h, 9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
2 mois de grand débat et ça commence aujourd'hui. Emmanuel Macron se déplace cet après-midi dans l'Eure où il va rencontrer 600 élus normands. Et puis la mort d'une patiente de 55 ans le mois dernier aux urgences de l'hôpital Lariboisière. La famille porte plainte pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. L'enquête interne montre une série de dysfonctionnements. Le Parlement britannique vote ce soir sur l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles. Si c'est oui, la sortie du Royaume-Uni est programmée pour le 29 mars, mais si c'est non, bien là, ça sera le grand point d'interrogation. Le mondial de hand, 4e journée de la phase de poule, la France qui l'a emporté hier face à la Corée unifiée, 34 à 23, affronte l'Allemagne. Coup d'envoi à 20h30 à Berlin.
Europe 1. Et tout de suite, c'est l'heure de l'édito écho avec Nicolas Barré, Nikos.
Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, vous venez juste de Tokyo, vous rentrez de Tokyo, vous avez rencontré longuement Le PDG de Nissan, c'est lui qui fait figure de Brutus pour avoir dénoncé il y a 2 mois les agissements supposés du super PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. D'abord, comment est-il, ce monsieur Saikawa ?
Bah, vous savez, c'est un patron japonais plutôt atypique, occidentalisé. Il insiste beaucoup pour parler en anglais. D'habitude, aussi au Japon, les PDG sont toujours entourés d'un staff très imposant. Tout est encadré, millimétré, protocolaire. Là, pas du tout. On comprend d'ailleurs pourquoi Carlos Ghosn l'avait choisi il y a 2 ans pour diriger Nissan. C'est quelqu'un de direct, qui va droit au but et qui parle sans prendre de gants.
C'était un fidèle de Carlos Ghosn ?
Alors, les relations entre les deux s'étaient détériorées ces derniers temps, mais oui, c'est quelqu'un qui a longtemps admiré Carlos Ghosn. D'où le choc, comme d'ailleurs pour tous ceux qui l'avaient suivi depuis 20 ans, avec la découverte en fait d'un autre visage de Carlos Ghosn, un homme qui aimait trop l'argent et qui avait tellement de pouvoir au sein du groupe qu'il avait fini par confondre les comptes de Nissan avec ses comptes personnels. Vous savez par exemple que pendant des années, depuis 2003, il avait fait verser à sa sœur qui vit au Brésil un salaire pour un emploi fictif. Il y en a pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Et des exemples comme ça, il y en a d'autres qui évidemment choquent énormément chez Nissan. On a vraiment un sentiment de profonde trahison.
Ouais, en tout cas, du côté de Renault, on crie au complot pour écarter Ghosn. Hein.
Oui, mais alors vous savez, les faits sont têtus quand même. Le dossier à charge sur Ghosn s'épaissit de jour en jour. D'ailleurs, même le FBI est en train de regarder le sujet. Et puis côté japonais, on s'interroge sur autre chose, sur un autre point. C'est pourquoi tous ces éléments d'enquête qui ont été transmis par Nissan en décembre, avec tous les détails sur les agissements de Ghosn, des copies d'emails, des avis de virement, des montages financiers, et bien pourquoi tout ça n'a toujours pas été présenté au conseil d'administration de Renault ? Ça a été communiqué à des dirigeants de Renault, aux avocats, mais pas au conseil d'administration où siège l'État. Alors pourquoi ? Et ça, c'est quelque chose de complètement incompréhensible. Et Saikawa, le patron de Nissan, le dit très clairement.
Ils veulent quoi, les Japonais ? Est-ce qu'ils veulent vraiment que l'alliance avec Renault continue ?
Alors ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Oui, d'ailleurs, Saikawa considère que c'est plus important que de parler de rééquilibrer les pouvoirs au sein de l'alliance. Ce sera un sujet un jour, mais pas maintenant. La priorité, c'est effectivement que cette alliance industrielle se poursuive.
Nicolas Barré pour l'édito Écho, c'est à 7h15, on retrouve votre interview, j'imagine, dans votre journal.
Tout à fait.
Dans les Échos. Merci beaucoup.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h18, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, direction le Royaume-Uni ce matin, dans l'attente d'un vote décisif sur le Brexit.
L'avenir de la Grande-Bretagne dans les mains de ses députés. Les parlementaires britanniques voteront ce soir pour ou contre l'accord sur le Brexit, négocié par Theresa May avec Bruxelles. Alors il y a peu de suspense selon les spécialistes, l'accord devrait être rejeté. Mais que va-t-il se passer ensuite ? Démission de la Première Ministre, nouvelles élections ou tout simplement un nouveau référendum comme certains l'espèrent ? Et puis il y a ce scénario qui fait peur aux Britanniques, que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, s'inédier sans accord. Nous sommes en direct de Londres avec notre envoyé spécial Sébastien Krebs. Bonjour.
Bonjour Nikos.
D'abord, pour qu'on comprenne bien Sébastien, ce no deal dont on entend parler depuis pas mal de semaines, ça veut dire quoi concrètement ?
Eh bien, sans accord, ça veut dire une sortie sèche dans 2 mois et demi, hein, c'est le 29 mars. L'accord qui va probablement être rejeté aujourd'hui, lui, prévoyait une période de transition de 2 ou 3 ans pendant lesquelles rien ne changeait. Mais sans accord, le Royaume-Uni perd brutalement tous les avantages liés à l'Union. En clair, c'est le retour de la frontière, de la douane et des droits à payer qui vont avec.
Ben ça, c'est concret et on imagine aussi l'impact potentiel sur l'économie britannique.
Oui, parce que la Grande-Bretagne a massivement recours aux importations, à 50 000 tonnes de nourriture par jour par exemple, plus les médicaments, les biens de consommation, et plus de la moitié de ces importations, 53%, eh bien elles proviennent de l'Union Européenne. Vous rajoutez des droits de douane, eh bien ce sont les prix de la vie quotidienne qui vont forcément augmenter. Et les experts de la Banque d'Angleterre font un topo absolument effrayant, inflation aggravée par l'effondrement de la livre sterling qui perdrait un quart de sa valeur, remontée en flèche du chômage, le PIB pourrait chuter de 8%. Voilà ce scénario du pire en cas de no deal. La principale organisation patronale estime que des milliers d'emplois sont menacés. La police, elle, avance des risques de troubles et conseille aux commerçants de renforcer leur sécurité par crainte de situation de pénurie.
Un scénario qui devient donc de plus en plus probable. Comment les Anglais s'y préparent au quotidien ?
Eh bien déjà, il ne s'y prépare pas depuis très longtemps. Theresa May a officiellement lancé les préparatifs juste avant Noël et débloqué 2 milliards d'euros, notamment pour les douaniers. Dans les entreprises, en revanche, on y pense depuis un peu plus longtemps. Je suis allé chez ce fabricant de vélos, par exemple, usine Brompton, dernier cri dans la banlieue de Londres. Le problème, c'est que les matières premières là-bas viennent de l'étranger. Le patron Will Butler a décidé de faire des stocks.
On se prépare au pire des scénarios.
Le plus gros problème, ce serait de manquer de matières premières. Ça va être le chaos. Alors on a investi 1 million de livres pour acheter des pièces. On en a pour 8 semaines d'avance au lieu de 4 d'habitude. C'est une assurance. Comme ça, on est sûr de pouvoir continuer à fabriquer nos vélos.
Sébastien Krebs, toujours en direct de Londres. On vient d'entendre cet entrepreneur. Est-ce que d'autres entreprises font la même chose, Sébastien ?
Alors d'autres font la même chose, mais certaines ne peuvent pas le faire. Par exemple, dans l'automobile, c'est beaucoup plus gros, ça demanderait beaucoup plus de pièces. Le groupe BMW a déjà annoncé qu'il préférait fermer son usine qui fabrique la Mini pendant un mois au moment du Brexit plutôt que de risquer des difficultés d'approvisionnement. Même inquiétude chez Toyota, chez Jaguar Land Rover qui réfléchissent à terme à même déménager leur usine.
Mais c'est quoi le risque ? Que les marchandises ne puissent plus traverser la Manche ? Qu'elles restent bloquées ?
Que ça devienne plus compliqué, beaucoup plus long avec le retour des contrôles douaniers. Et personne ne sait comment ça va se passer entre Douvres et Calais. Aujourd'hui, il y a 10 000 camions qui traversent la Manche chaque jour. C'est fluide. Demain, vous rajoutez ne serait-ce que 2 minutes de formalité par camion. Vous avez immédiatement un bouchon monstre de 50 km et jusqu'à 6 jours d'attente selon certaines projections. Et le seul test qui a eu lieu, c'était la semaine dernière, mais avec seulement 89 participants. Le directeur de l'association des transporteurs routiers, Rod McKenzie, en est affligé.
Si vous avez 10 000 camions par jour, comment vous voulez qu'un test soit pertinent avec seulement 89 véhicules ? Franchement, j'aimerais bien en rire si ce n'était pas aussi tragique. Nous n'avons aucune confiance à ce stade. On est très inquiets. La préparation du No Deal est beaucoup trop tardive. Et si la chaîne d'approvisionnement est rompue, ça va être un désastre pour l'économie.
Alors, on a du mal à imaginer qu'un tel chaos concerne nos voisins anglais. Et malgré tout, les députés s'apprêtent à rejeter l'accord. Est-ce qu'ils en assument les conséquences ? Est-ce qu'ils réalisent des conséquences, justement ?
Disons qu'il y en a une partie qui joue une autre carte, qui espère que tout cela finira par conduire à carrément annuler le Brexit. Mais les conservateurs les plus durs, oui, c'est un coup de poker, mais les conservateurs les plus durs, comme Boris Johnson, assument parfaitement ce scénario qu'on vient de décrire. Selon eux, tout cela ne sera que passager et à la fin, le Royaume-Uni s'en sortira bien mieux.
Merci Sébastien Krebs, envoyé spécial à Londres, pour ce reportage très significatif sur le quotidien des Anglais. Vote décisif ce soir au Parlement britannique, qu'on suivra de très très près sur notre antenne. Europe 1 va plus loin. C'est tous les matins à 7h20.
Et si vous souhaitez réagir à ce sujet, vous pouvez le faire par téléphone en nous appelant au 3921 ou sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h23.
De quoi allez-vous nous parler, Anissa Mbida ?
On va découvrir des collants quasiment indestructibles qui résistent aux ongles, aux fermetures éclair et même aux plantes
formidable.
De pied mal hydratées.
Des collants.
Des collants, oui.
Ouais. Ok, à tout de suite.
Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anis Mbida, Nikos.
J'ai peut-être quelque chose pour vous, mesdemoiselles, mesdames, qui nous écoutez ce matin. C'est l'innovation présentée par Anis. Si vous entendez ça, ça va vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Voilà. Sans faire de pub, évidemment.
Mais non.
Il existe apparemment des collants quasiment indéchirables. Vous les avez testés ?
Non, j'ai pas testé. C'est
dommage.
Une amie qui l'a testé. Et franchement, ça marche quand même plutôt pas mal.
Alors ça marche comment ? Expliquez-nous.
Alors, je vois Céline qui est dubitative, elle a un peu raison, parce que c'est pas la première fois qu'on nous promet des collants qui sont infilables, introuvables, indéchirables. Pourtant, il suffit de les mettre un petit peu vite et un gros trou. Ou quand ils sont très résistants, eh bien, c'est un truc un peu épais, là, totalement opaque, alors que ces dames, voilà, hein, je parle de contrôle, Céline, hein, ce que les femmes veulent, c'est des collants fins, des collants voile, capables
vous
de résister aux bijoux.
Écoutez.
Il y a tout ce qui dépasse les chaînes. Enfin, en tout cas, il y a une start-up qui s'appelle Shirtex qui veut relever le défi. Elle a utilisé les fibres les plus résistantes qui existent aujourd'hui, les mêmes qu'il y a dans les gilets pare-balles et dans les parachutes.
Ah ouais.
Et elle a fait des collants ultra fins, quasiment indéchirables.
Ça se déchire ou pas ? En vrai, le quasiment me pose problème.
Alors, comme je disais, c'est une amie qui l'a testé. Elle l'a vraiment tiré dans tous les sens, de toutes ses forces.
Avec
elle
n'a
jamais
tout,
réussi
à tirer.
Elle a planté ses ongles dedans. Ah. Elle a même coincé dans une fermeture éclair. Hein. Donc, c'est vraiment très résistant. Alors, évidemment, hein, si on y va au couteau ou si on plante un clou dedans, il finira quand même par se trouver.
Okay.
Mais il y a une chose quand même intéressante. Hein. Il filera pas, mais il laissera juste un tout petit trou. Donc, il n'y a pas besoin de faire un petit peu, vous savez, le coup du... du vernis à ongles. J'entends, mais je vois Céline Kallmann qui se pose des questions. Ça va coûter combien? J'imagine que ça va être cher.
Alors,
ce collant
va être très très cher. C'est 100 euros le collant, donc c'est 10 fois plus cher que les collants classiques. 100 ouais. euros. Mais bon, avec tous les modèles d'aujourd'hui là, qui sont devenus quasiment jetables, c'était une bonne idée d'investir dans des vrais bons collants durables et pas jetables.
Ça marche avec les bas aussi?
Et ils ont pas le bas pour le moment, ils ont que des collants.
Ah d'accord, voilà.
Ça rappelle des choses cette musique, hein.
Ouais.
Tout de suite on y pense.
Anicem Bida, le futur à portée de bas, c'est tous les jours à 7h25.
Pardon. C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur EDF.fr. Dans deux minutes, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabral-Nicolas.
C'est bas et c'est haut, la météo avec Lolo.
Oui,
est-ce qu'il faut mettre des gros collants aujourd'hui? Est-ce qu'il va faire froid?
Mettez des collants, parce que ce matin, bon, 0 degré Millau, 1 à Strasbourg, 2 à Besançon et Lyon, 4 à Clermont, 5 à Lille, 6 à Rennes, ce sont les températures de saison, mais enfin, c'est pas très chaud. Hein. 7 à Paris quand même, Paris est une ville bien placée comme Marseille. Alors, en réfléchissant un petit peu à tout ce qui va se passer cette semaine, ou en observant tout simplement, je me suis dit que franchement, aujourd'hui et demain sont les deux journées dont il faut profiter avec le plus de plaisir, puisque ce sont les deux journées les plus agréables de la semaine. Donc aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de pluie, ou très peu, quelques gouttes près des frontières du nord et du nord-est. Mais nous aurons un ciel gris sur la Bretagne, la Normandie, la Picardie, les Pays de la Loire, peut-être la région parisienne, enfin le ciel sera gris, et peut-être quelques éclaircies sur Paris. Poitou-Charentes, Bourgogne et Berry, ce sont là un brin de soleil, c'est un brin de soleil qui va apparaître, un ciel voilé dans les Rhônes, dans le Rhône, la Franche-Comté et l'Alsace, et un grand beau, allez, je me hasarde, un grand beau en mi-journée sur le sud-ouest, l'Auvergne, les Alpes et le bassin méditerranéen. Température du jour comme hier, pratiquement, entre 6 et 15 degrés. Il fera 15 à Marseille et même 16 degrés à Bastia.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. À tout à l'heure, à 7h40, Jean-Michel Apathy nous parlera du grand débat national. À 7h43, Axel de Tarlé nous parlera du risque climatique pour les entreprises. Et à 7h45, j'aurai avec moi en studio Joe Spiegel, qui est le maire de Kinersheim. C'est une petite commune près de Mulhouse. Et là-bas, la démocratie participative s'exerce au quotidien depuis 20 ans. Merci d'écouter Europe 1. Excellent réveil à tous. Tout de suite, le journal.
Nous sommes le mardi 15 janvier, il est 7h30.
7h, 9h.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Le journal est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Les forces de l'ordre déployées pour maintenir à distance les gilets jaunes dans l'heure où Emmanuel Macron est attendu à Grand-Bourterould. C'est là, dans une petite commune de près de 4000 habitants, que le chef de l'État va prendre la parole devant plusieurs centaines de maires afin d'ouvrir le grand débat national. Débat censé apporter des réponses à la crise sociale traversée par la France. Des gilets jaunes maintenus à distance mais qui comptent bien être visibles.
Il a dit lui-même, il ne changera pas de sa ligne droite. Il a confirmé qu'il ne reviendrait pas sur un retour de l'ISF. Je crois que tout est dit, il n'y a même plus à parler de grand débat, de doléances ou autre. Il ne retient même pas la priorité qui est le pouvoir d'achat. On ne s'attend pas forcément à pouvoir le voir, mais on va lui montrer quand même, par certaines actions et certains actes pacifiques, qu'on est bien là.
Je pense qu'il y aura des gilets jaunes de mobiliser, effectivement, histoire de dire on est présent, on est là. Voilà, si vous ne voulez pas venir nous voir, vous nous ignorez, comme vous savez si bien le faire. Nous, on n'ignore pas le fait qu'on veut être acteur de notre société, donc on sera là.
Et hier soir, depuis Carcassonne, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a estimé que le grand débat était une main tendue, une chance. De son côté, le MEDEF invite les entreprises à y participer.
On est en direct avec Londres il y a quelques instants et Sébastien Krebs. C'est bien les députés britanniques votent ce soir pour ou contre les modalités du Brexit.
Oui, toute la question est de savoir s'ils vont accepter ou non l'accord conclu entre Londres et Bruxelles. Le Brexit est censé entrer en vigueur le 29 mars prochain. Le vote de ce soir est donc crucial pour la suite du processus. Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge des affaires économiques, espère une issue positive.
Les parlementaires britanniques ont le sort de leur pays entre leurs mains depuis le vote du Brexit que la Commission européenne n'a pas souhaité, qu'elle respecte mais qu'elle regrette. Nous avons cherché à définir le meilleur accord possible entre le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même. Je pense que cet accord, tel qu'il est le meilleur accord possible. Sera-t-il suffisant pour convaincre les parlementaires britanniques? C'est au Parlement lui-même de se prononcer. On sait qu'il y a des débats, des réticences, que la possibilité d'un échec n'est pas négligeable. Attendons de voir le résultat du vote, respectons-le, et puis ensuite tâchons de définir ensemble les meilleures solutions possibles.
Pierre Moscovici avec Anne-Laure Jumet pour Europe 1. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes polonaises hier soir pour rendre hommage au maire de Gdansk qui a succombé à ses blessures après avoir été poignardé dimanche lors d'un événement public. Son agresseur de 27 ans sortait de prison. Il a été interpellé.
Le procès de Mehdi Nemmouche, jugé pour le meurtre de 4 personnes au musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014.
Ce matin, place à la défense, puis Mehdi Nemmouche pourra s'expliquer. Son avocat, Maître Courtois, va marteler une nouvelle fois que son client n'a rien à se reprocher.
Mehdi Nemmouche est innocent. Vous connaissez beaucoup d'innocents qui n'ont pas envie de parler. Ça fait maintenant quelques années qu'il brûle d'être ici pour pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire sa vérité qui est la vérité qui va être démontrée. Et il est très heureux de le faire face à un jury. Parce qu'un juge citoyen, vous voyez, ça se place au-dessus de la raison d'État.
Une stratégie de défense totalement insupportable, répond l'avocat français de l'association des victimes du terrorisme, Maître Antoine Cazubello-Ferrand.
J'attends malheureusement le pire. C'est-à-dire pas seulement quelqu'un qui va dire « c'est pas moi, j'étais pas là », c'est des gens qui vont nous sortir des versions abracadabrantesques. Et là, ça va nous faire encore plus mal. En clair, on n'attend rien, mais on attend beaucoup de la justice. Parce qu'on a des questions précises à leur poser, on a des détails précis et on va les mettre en face de leurs responsabilités. Après, ils n'assument pas, c'est leur problème.
Un propos recueilli pour Europe 1 par Isabelle Horry que l'on retrouve dans le journal de 8h sur Europe 1. Une plainte déposée contre X pour homicide involontaire, non-assistance à personne en danger après le décès d'une patiente aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris après 12 heures d'attente. Une plainte qui survient alors que la PHP a pointé une série de dysfonctionnements dans le service ainsi qu'un manque de moyens. Un rapport qui ne règle rien, selon l'avocat de la famille de la victime, Eddy Arneton.
Pour eux, c'est du langage administratif. On attend simplement aujourd'hui que ceux qui sont les responsables de ce décès se désignent de façon claire. Les zones d'ombre sont nombreuses puisque ce rapport est incomplet. Puisqu'à ce jour, nous n'avons toujours pas l'autopsie, donc nous ne pouvons pas déterminer les causes de ce décès. Ce qui est appelé en vérité dysfonctionnement, à mon sens, est constitutif d'une faute pénale. Et c'est pour cela que la famille de Madame Myrtil a déposé plainte pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger.
Et Diarneton avec Justin Morin. Aujourd'hui, sur votre compte bancaire, vous allez peut-être recevoir un virement, une avance de l'argent du fisc sur les crédits et réductions d'impôts. 9 millions de foyers sont concernés.
Europe 1, il est 7h35.
Les immeubles de la rue de Trévise, touchés par l'explosion qui a fait 4 morts samedi matin, seront-ils détruits?
C'est la question qui hante les rescapés, les sinistrés. 150 personnes ont dû être relogées car 12 immeubles restent inaccessibles. La priorité pour les habitants où a lieu l'explosion, comme Claire, c'est de récupérer quelques affaires.
On a tous apparemment extrêmement envie de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir y réhabiter. En attendant ça, notre intérêt c'est de récupérer nos affaires parce qu'on ne sera jamais aussi bien dédommagé qu'en récupérant tous nos biens. Notre priorité ça va être effectivement de faire tout pour qu'on puisse organiser peut-être un déménagement commun pour tous les habitants de l'immeuble avec peut-être une nacelle ou je ne sais pas, il faut qu'on détermine par quel moyen ou par l'extérieur avec un échafaudage, un escalier extérieur. Voilà.
Un propos recueilli par Mathieu Bock. Match test pour les Bleus du handball ce soir à Berlin. Ils affrontent l'Allemagne après une victoire hier contre la Corée 34-23. Les Bleus qui se souviennent il y a 12 ans d'une demi-finale remportée par les Allemands après un match d'une intensité incroyable. Guillaume Gilles, le co-entraîneur des Bleus, annonce une rencontre ce soir survoltée.
Je peux juste vous annoncer que ça va être chaud bouillant et que ça va être juste énorme en termes d'événements de pouvoir à nouveau vivre en France-Allemagne à Berlin. Et je me réjouis à l'avance de pouvoir participer à cet événement-là parce que ça va être du lourd.
Ça va être énorme. Guillaume Gilles avec Christophe Lamar.
Merci pour le journal de 7h30. Céline Kalman, bonne journée à vous.
Europe 1. Il est 7h36.
À suivre la politique. Jean-Michel Apathy, on part sur quoi?
On va parler du grand débat, bien sûr, qui s'ouvre aujourd'hui avec le déplacement d'Emmanuel Macron. Et je vais vous révéler en exclusivité la question qu'a oublié de poser Emmanuel Macron.
Ah, écoutez, on a hâte. Axel de Tarlé, vous nous emmenez où?
Eh bien, imaginez qu'EDF fasse faillite à cause du changement climatique. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis.
Apathy Tarlé, c'est dans un instant sur Europe 1.
7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Cher Jean-Michel Apathy, le grand débat national s'ouvre cet après-midi, mais vous considérez qu'il manque quand même quelques questions essentielles.
Ah oui, je considère, parce que j'ai bien regardé les questions et celle-là, elle manque. Vous savez, il y a une trentaine de questions formulées par Emmanuel Macron sur des grands sujets, l'organisation de l'État, la fiscalité, l'écologie. il n'y a aucune question sur, tadam, le pouvoir d'achat. Et quand même, si on réfléchit un petit peu, le pouvoir d'achat, c'est ce qui a créé les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont créé le grand débat. Sans les Gilets jaunes, il n'y aurait pas de grand débat. Et il n'y a pas de question sur le pouvoir d'achat. C'est quand même un truc un peu lunaire, non ?
Alors, vous auriez aimé quelle question ?
Ah, mais je vais vous dire. Avant de vous dire, de répondre à votre question, sur la question que j'aurais aimé, je voudrais vous citer le président de la République qui, dans sa lettre, que tout le monde a lu bien sûr, évoque le pouvoir d'achat. Et il écrit ceci. « Certains d'entre nous, certains Français, sont insatisfaits ou en colère, parce que les salaires trop faibles ne leur permettent pas de vivre dignement du fruit de leur travail. » Mais la question derrière, elle est évidente. Comment on change ça ? Profitons de ce grand débat pour se poser la question. Comment on fait que les gens qui travaillent puissent vivre de leur travail. Mais la question, si elle n'est pas posée par Emmanuel Macron, elle va être posée dans le grand débat, évidemment. Il y a des gens qui vont venir témoigner de leurs difficultés à finir les fins de mois, alors même qu'ils travaillent. Ils vont raconter leurs amis, leurs voisins, les membres de leur famille qui ont ces difficultés-là. Et in fine, qu'est-ce qui va se passer ? Sans doute, dans beaucoup d'endroits en France, peut-être partout, va remonter la question qu'Emmanuel Macron avait cru mettre de côté le 10 décembre. Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC ou pas ? C'est ça la question. Alors, c'est une grande question. Et comme on sait qu'Emmanuel Macron va y répondre non, ça va être sans doute une grande déception. Il y a une deuxième porte d'entrée pour le pouvoir d'achat, les retraités. Les retraités sont très nombreux sur les ronds-points. Pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons, mais pourquoi ? En 2019, on a désindexé les retraites, oui, les pensions de retraite. Alors, ça veut dire que l'inflation prévue est de 1,7% et les retraites et les pensions n'augmenteront que de 0,3%. Vous vous rendez compte de la perte du pouvoir d'achat ? Le gouvernement a fait ça pour une bonne raison, la sécurité sociale économise 1,8 milliard d'euros. Mais les retraités, ils ne sont pas contents, donc ils vont investir le débat. Il y aura beaucoup de retraités dans les débats. S'il n'y a pas de retraités, il n'y aura pas de débat. Enfin, c'est quand même une composante essentielle aujourd'hui du malaise français. Et ils demanderont, mais vous ne pouvez pas revenir sur la désindexation des retraites. Je vous conseille la lecture du Parisien ce matin. Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, vous verrez ce que veut dire botter en touche quand on vous pose une question embêtante. Parce que les lecteurs du Parisien lui demandent « Alors, vous allez revenir sur la désindexation des retraites ?» Et limite, il parle du PSG, Darmanin. Donc, si vous voulez, ça va revenir dans le débat et ça va être important. Tout ça, ça montre quoi ? Ce débat, on le sait, il a été bricolé à la hâte pour répondre à la crise. Très bien, c'était sans doute ce qu'il fallait faire. Mais les implications de ce débat sont multiples. On ne peut pas chasser, quand on ouvre un vrai débat, les vrais problèmes. Et ça, Emmanuel Macron, il doit s'y préparer.
Il était nécessaire, ce débat.
Ah, vu le bazar dans lequel on est, il était sans doute nécessaire. Mais la sortie du débat, si cette sortie n'est pas gérée avec sincérité, le retour de flamme sera quand même vigoureux.
Merci beaucoup pour votre point de vue, Jean-Michel Aplati. C'est tous les jours à 7h40. Axel de Tarlet. Vous nous emmenez aux États-Unis. Hier, la compagnie d'électricité de Californie a déposé le bilan. Comment est-ce possible ? Elle accuse le dérèglement climatique, c'est sérieux ?
Voilà, quand le climat crée des faillites. Alors, petit rappel des faits, la Californie a été ravagée l'an dernier par de terribles incendies, 88 morts dans les incendies de Paradise. Or, selon la loi californienne, c'est la compagnie d'électricité qui est responsable parce que c'est la chute d'une ligne à haute tension qui est à l'origine de ces incendies. Donc, cette compagnie d'électricité doit indemniser, elle doit réparer les dégâts qui s'élèvent à 30 milliards de dollars, alors énorme, évidemment elle ne les a pas, cette compagnie d'électricité qui valait autant que EDF en bourse. Donc cette compagnie d'électricité vient de se déclarer en faillite. Alors pour sa défense, elle accuse le réchauffement climatique. La Californie, dit-elle, est ravagée par la sécheresse et la moindre étincelle est fatale. Donc effectivement, cette faillite doit nous interroger parce qu'on est là face à un nouveau type de risque pour nos entreprises, le climat.
Ça veut dire quoi ? Que ça nous concerne aussi ? Que nos entreprises pourraient être fragilisées à cause du réchauffement climatique ?
D'ailleurs, exactement. Et d'ailleurs, les banques centrales tirent la sonnette d'alarme. Les banques centrales, vous savez, elles ont une mission, c'est de s'assurer de la stabilité économique, s'assurer qu'il n'y ait aucun événement extérieur qui vienne casser l'économie mondiale. Alors, ces événements extérieurs, en général, ce sont les marchés financiers, c'est la faillite d'une banque, les Lehman Brothers en 2008. Eh bien, désormais, les banques centrales disent, maintenant, il nous faut surveiller le climat qui peut casser l'économie mondiale. Alors concrètement, comment on surveille le climat ? Comment on surveille nos entreprises par rapport à ce risque ? Eh bien, l'une des pistes consisterait à faire passer à nos entreprises des tests climatiques. Exemple, si la température augmente de 2 ou 3 degrés, est-ce que Danone vendra toujours autant de yaourts ? Est-ce que telle entreprise devra revoir son modèle économique sous peine de faire faillite, etc.
Mais en tout cas, c'était un sujet à travers les médias qui ne parlait pas nécessairement aux citoyens, dans le quotidien. On disait oui, le climat, oui, mais pour les générations à venir. Là, vous êtes en train de nous dire, Axel de Tarly, qu'il s'invite au cœur de la vie économique.
Exactement. Et d'ailleurs, on peut même penser, Nikos, que bientôt, les annonces sur le climat, sur les émissions de CO2, feront réagir Wall Street et feront même chuter des actions en bourse, comme par exemple cette compagnie d'électricité de Californie qui était aussi grosse que EDF et qui a dévissé après les incendies de novembre dernier. Vous voyez, les traders, bon gré mal gré, vont être obligés d'avoir une conscience écologique.
Axel de Tarly pour le Zoom Éco, tous les jours à 7h43 sur Europe 1.
Europe 1. Et il est 7h45, Nico Saliagas à suivre.
Eh bien, on va continuer de parler du grand débat national que vous évoquez, cher Jean-Michel Apathy. Il s'ouvre avec aujourd'hui. Mais mon invité s'appelle Joe Spiegel. Il est le maire de Kinnersheim, c'est près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, et depuis 20 ans, cette commune de 13 000 habitants expérimente à son échelle ce qu'on appelle la démocratie participative. Quels bénéfices, quelles limites, comment ça marche concrètement? Retour d'expérience tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h46, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
On l'apprend à l'instant à Tokyo, le tribunal rejette la demande de libération sous caution de Carlos Ghosn. Le patron de Renault est en prison depuis plus de 2 mois. Emmanuel Macron donne le coup d'envoi d'un grand débat national aujourd'hui. Ça se fera dans la petite commune de l'Eure, à Grand Bourtheroulde. Et par ailleurs, 5 garants vont être nommés pour garantir l'indépendance du grand débat. C'est l'heure du vote, on l'a dit, pour les députés britanniques. Ils vont décider ce soir s'ils acceptent l'accord sur le Brexit défendu par la première ministre Theresa May. Championnat du monde de handball, match à haut risque ce soir face à l'Allemagne, pays hôte. Hier soir, les Bleus ont battu la Corée 34 à 23. Enfin, la tendance météo, nuages sur la moitié nord, le soleil va arriver dans le sud. Les températures cet après-midi de 4 à 16 degrés.
La météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h.
Europe 1.
Nico Saliagas, alors que débute aujourd'hui le grand débat pour recueillir la parole des Français, vous recevez ce matin Joe Spiegel, le maire de Kinnersheim, une commune de 13 000 habitants dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse.
Bonjour Joe Spiegel.
Bonjour.
C'est intéressant de vous recevoir ce matin car vous êtes maire depuis 20 ans et votre ville est un laboratoire démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que vous associez les habitants à toutes vos décisions?
Oui, en fait, il n'y a pas simplement une méthode, il y a un écosystème global avec un lieu, un état d'esprit et des parcours démocratiques. Le lieu, c'est la maison de citoyenneté pour dire qu'au fond, il y a un lieu dédié aux pratiques démocratiques. C'est quand même important de le dire. C'est pas dans un fond d'une salle ou dans une petite salle du conseil municipal. Il y a un lieu des pratiques démocratiques.
Deuxième comme élément. Comme l'Agora dans l'Antiquité.
Comme l'Agora voilà. Il faut que les gens se sentent bien chez eux. C'est autant la maison des citoyens que des élus. Autant de la concertation que de la décision. Mmh. Et puis, il y a un état d'esprit à chaque fois qu'un projet arrive sur la place publique. Que ce soit par une pétition, et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Le droit d'interpellation est important. Ou, par la municipalité qui met un agenda, un projet qui est inscrit dans son contrat municipal, je dis ce que je fais, eh bien j'ouvre une séquence démocratique qui a un début et une fin. Le début, c'est j'invite toutes les personnes concernées. Très important, la base démocratique le plus large possible. J'ouvre par un débat public. Le débat est le début du processus
comment
démocratique.
Comment gère un débat public sans être dans la cacophonie,
Parce qu'il y a de l'ingénierie démocratique, il y a de l'animation à faire. Moi, j'ai développé un budget de 20 000 euros pour que les agroacteurs, les citoyens engagés dans ma commune, que les collaborateurs, les élus, soient formés un tout petit peu à l'animation du débat. Par exemple, au début d'une réunion, il y a des règles à préciser. On ne dit pas « on », qui est une irresponsabilité totale, on dit « je ».
Je, on assume.
On n'applaudit pas, on n'est pas à l'Assemblée nationale le mercredi après-midi et on n'est pas dans la cour de récréation. Donc il y a des règles, et ça c'est important, la démocratie c'est pas la démagogie. Et donc on ouvre le débat, et le débat est instituant d'une séquence démocratique. Et c'est à partir de ce débat que se construit une instance participative qui est la pierre angulaire de tout processus. En France, on oublie toujours, il y a soit le débat, soit les décisions. Mais entre les deux, il y a ce qui relie, c'est-à-dire la co-élaboration, la co-construction. Et ça suppose une démocratie lente, de prendre en compte la complexité, l'altérité qu'on doit assumer, etc.
Vous prenez un différent, un sujet polémique, et plutôt que de garder le brouhaha, vous allez responsabiliser les uns et les autres avec le jeu, déjà, et le dialogue constructif. Qu'est-ce que ça veut dire que lorsqu'il s'agit de créer un parc, l'aménagement du temps de l'enfant, un rond-point, tout est décidé avec les habitants?
Bien sûr, c'est mise en agenda du projet, voilà. Communiqué de presse, information par lettre quand il y a un projet important, par internet, par toutes les méthodes, on invite les habitants, c'est le débat public institué. Le débat est intéressant parce qu'il fait émerger, donne la parole aux gens, les mots sur les mots, MAUX, sur les questions, sur les peurs, sur les désaccords. Et donc une fois que tout ça est là, comment on construit les accords ensemble. Et c'est là que les conseils participatifs que nous avons créés comme modèle de pierre angulaire démocratique interviennent. Et ces conseils participatifs réunissent toutes les ressources de sens.
Toutes les forces en présence.
Les habitants, parfois tirés au sort, pour permettre, pour éviter le toujours les mêmes, en fait. Tirés au sort.
C'est-à-dire qu'on oblige quelqu'un qui ne s'intéresse pas.
On n'oblige pas, c'est une offre. C'est-à-dire que les gens peuvent refuser, mais c'est dire que, au fond, tout citoyen est capable de parole publique et d'être coproducteur de l'intérêt général et donc coproducteur de la décision publique.
C'est pas la chirurgie permanente.
Mais c'est l'inverse. C'est juste l'inverse parce que, au fond, la parole du public, de l'élu, elle est importante au début. C'est la parole au départ. C'est pas le discours à la con, c'est la parole au départ. Quel est le sens qu'on veut donner? Quel est le climat qu'on veut installer et dire que finalement, faisons-nous confiance, mais respectons-nous. Et ça marche.
Et le rôle du maire, donc, il est en train de changer dans ce processus. C'est plus le maire qui tranche, c'est presque le maire qui accompagne, finalement.
Mais tout à fait. Bon, je pense qu'il faut rappeler l'idée qu'à un moment donné, il faut trancher. Et c'est l'honneur du politique de trancher à un moment donné. C'est le conseil municipal chez nous, à l'échelle communale.
Il n'y a pas de déception ?
Par contre, non. Par contre, il faut que la phase décisionnaire qui appartient aux élus soit précédée par une phase décisive de concertation, de telle sorte que la décision qu'on prend vient comme un fruit mûr. Vous voyez, je n'oppose pas la démocratie construction et la démocratie de représentation.
Donc, il y a toute une pédagogie pour arriver à la décision finale, en fait, c'est ça.
Complètement, et d'une certaine manière, je m'inspire de Montessori, de Célestin Freinet en pédagogie.
De votre métier
De
d'avant.
Mon métier de prof DPS, pour dire qu'au fond, les habitants sont des acteurs.
C'est ce qui a manqué à la France ces dernières années ?
Bien sûr, le fait d'avoir un grand débat aujourd'hui contraint montre qu'en fait, on ne sait pas avoir des petits débats, des petits matins, du quotidien, de construire ensemble, avec les habitants, avec les ressources de sens, avec les experts, Des solutions les plus pérennes possibles.
Vous dites, on a un débat contraint. Est-ce qu'il avait le choix, le président de la République ?
Qu'aurait-il
pu faire d'autre ?
Non, il y a un débat, mais moi, je pense qu'il faut s'interroger beaucoup sur le débouché du débat. Le débat, c'est le début d'un processus démocratique.
C'est pas la solution.
C'est pas la solution, c'est le départ. Donc on peut s'interroger sur comment la suite.
Il y a beaucoup de questions sur l'organisation de l'État, renforcer la décentralisation, donner plus de pouvoir aux citoyens. Qu'est-ce que vous espérez, vous, en tant que maire d'une commune de 13 000 habitants ?
D'abord, qu'on redonne des dotations qui ont été un peu supprimées, qui c'est assez dramatique pour les élus de ce point de vue-là. Moi, je n'attends pas forcément de l'État, j'attends simplement qu'on a un acte 3 de la vraie décentralisation, parce que je pense qu'au fond, les transformations personnelles et collectives, elles se passent dans les territoires vécus. C'est dans les couples communautés que se passent les choses. Donc arrêtons de décentralisons sur le territoire de plus en plus de compétences, de pouvoir d'agir des élus et des citoyens.
Dernière question, Josh Spiegel, vous êtes maire de Kinersheim, une commune de 13 000 habitants, on l'a dit, dans le Haut-Rhin. Quand on est maire, on est aussi politique. Qu'est-ce que vous a appris votre métier en tant que maire depuis combien de mandats déjà ?
5 mandats.
Et c'est votre dernier mandat ?
C'est mon dernier mandat.
Qu'est-ce que vous avez appris de votre fonction de maire ?
L'enthousiasme du commencement, c'est-à-dire chaque fois qu'un projet se met sur la place publique, eh bien on recommence, on travaille. La démocratie, elle est continue, elle est réelle, elle est vivante, ainsi.
Partager le pouvoir, c'est compliqué ?
C'est la condition, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de draguer les gens quand ils sont aux élections et les oublier quand ils sont citoyens. Il faut passer du pouvoir sûr au pouvoir avec. Et c'est toute la transition du rôle des élus.
Josh Spiegel, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Europe 1, il est 7h54.
À ne pas manquer, dans le journal de 8h, interview rare du capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva. Et juste avant la petite histoire de Jean-Philippe Ballas, accrochez vos ceintures, on vous emmène en Californie pour un numéro de gymnastique de très haute voltige. On vous accompagne jusqu'à 9h sur Europe 1. Un petit café, à tout de suite.
7h, 9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Ça s'appelle Vous savez quoi, c'est tous les jours, juste avant 8h, avec vous Jean-Philippe Ballas. Et ce matin, vous nous racontez l'histoire d'une renaissance sur un tapis de gymnastique.
Alors les amis, j'y connais pas grand-chose, mais je peux vous dire qu'il s'est passé un truc de dingue au championnat universitaire des États-Unis. Avec la note parfaite, un 10 pour cette jeune femme de 21 ans. Vous entendez la clameur ? Elle s'appelle Kathleen Ohashi, elle vient de passer au sol et elle s'est littéralement envolée sur la voix de Michael Jackson. Explosive, gracieuse, athlétique, élastique et puis surtout, il y a ce sourire lumineux, vous savez, pas le sourire figé, crispé qu'on voit parfois chez les sportifs de haut niveau, non. Kathleen Ohashi respire, ça se voit et c'est aussi parce qu'elle revient de loin. Il y a quelques années encore, cette gamine était l'un des grands espoirs de la gymnastique américaine. Sur des vidéos, on la regarde haute comme trois pommes, puis adolescente, petit soldat qui s'entraîne non-stop, j'étais sur le toit du monde, dit-elle. Seulement, c'était jamais assez bien. On la trouve trop grosse à l'époque pour une gymnaste. Et à force de martyriser son corps, Kathleen Ohashi va se blesser au dos, abandonner le très haut niveau, puis se reconstruire, reprendre du plaisir et revenir enfin par la petite porte des championnats universitaires. Depuis 24 heures, je peux vous dire que sa prestation fait le tour du monde, elle que l'on comparait à un oiseau qui ne pouvait pas voler. Bah vous savez quoi ? Ce matin, vous avez le bonjour d'une gymnaste qui ne touche plus terre.
Bravo.
Jean-Philippe Ballas, la petite histoire qui fait pousser des ailes, c'est tous les jours sur Europe 1, juste avant 8h.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite on retrouve Laurent Cabrol pour la météo, Nikos.
C'est bien Mossad, mon Lolo.
Ouais, c'est Mossad, mais ma foi c'est quand même pas trop désagréable par rapport à ces jours prochains et à ces jours derniers. La question que l'on pose en général, que tout le monde me pose, c'est alors le froid, la vague de froid, est-ce que c'est le froid va arriver ? Est-ce que la semaine prochaine ? Alors,
La neige en ville.
Je le dis tout de suite à nos amis. La vague de froid, non. Le froid, oui, à partir de dimanche, lundi prochain, je pense. 3, la neige, perhaps.
Maybe.
Voilà.
Peut-être. Bilingue.
Bilingue.
Mais vous parlez
je parle comme Johnny Penn. Donc, je suis là, presque formel, il y aura quand même un petit peu de neige la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, c'est quand même bien tranquille. Bretagne, Normandie, Picardie, région parisienne, Pays de la Loire, un ciel gris avec 2 ou 3 rayons de soleil. Poitou, Charente, Berry et Bourgogne, des éclaircies. Champagne, Ardennes et Lorraine, 3 gouttes de pluie. Un ciel voilé sur le Rhône, la Franche-Comté et l'Alsace. Petite parenthèse pour Lyon, quand même, nous risquons. Nous aurons la chance d'avoir quelques rayons de soleil à Lyon. Et puis le soleil sera là dans le sud-ouest, l'Auvergne, les Alpes et la Méditerranée, avec des températures qui vont s'échelonner entre 4 et 16 degrés. 16, s'il vous plaît, à Narbonne. 15 à Marseille. 14 à... 11.
Ah oui.
Perpignan.
Non. 10 degrés à Caen, 9 degrés à Paris, Toulouse et Rennes, 8 degrés à Lyon, 7 à Clermont-Ferrand, 6 à Nancy et 4 à Épinal.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
À suivre, juste après le journal, Nikos.
8h12, Vincent Herouette, le retour tonitruant du terroriste Cesare Battisti en Italie. 8h15, l'interview politique. Audrey Crespo-Mara reçoit la secrétaire d'État à l'écologie et toute nouvelle copilote du grand débat national, Emmanuel Bargon. Tout va bien ? Vous mettez en route tranquillement, vous êtes encore à la maison, on est à vos côtés avec le sourire. C'est votre matinale info et c'est jusqu'à 9h. Merci d'écouter Europe 1.
Et merci de nous avoir choisis. Il est 8h, très bon réveil. Votre matinale info continue avec Nikos Aliagas.
Le journal est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
3 titres à la une ce matin.
Les Français vont-ils s'emparer du grand débat national ? C'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Aujourd'hui, en déplacement dans l'Eure, le président lance la concertation. Forte présence policière en ville pour éviter tout débordement. Ce mardi 15 janvier est aussi une date importante au Royaume-Uni. Les députés britanniques votent ce soir pour ou contre le projet de Brexit de Theresa May. Nous serons à Londres dans un instant. Le procès de Medine Mouche à Bruxelles va-t-il enfin parler ? Celui qui est accusé du massacre du musée juif en mai 2014 sera interrogé aujourd'hui par le tribunal.
Europe 1.
Cette fois, nous y sommes. C'est le coup d'envoi du grand débat national. Emmanuel Macron sera aujourd'hui à Grand-Bourg-Teroult dans l'Eure pour lancer la concertation. Il a prévu d'échanger avec 600 élus locaux. Rejoignons sans plus attendre Jean-Gabriel Bourgeois. Bonjour Jean-Gabriel.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour Europe 1. Vous avez rencontré toute une série de protestataires portant gilets jaunes et qui ont bien l'intention d'interpeller le chef de l'État.
Oui, des gilets jaunes qui commencent à arriver aux abords de la ville. Certains ont même dormi ici pour ne pas avoir à passer les contrôles à l'entrée du village. Il faut dire que les accès sont déjà barrés et beaucoup regrettent de ne pas pouvoir dialoguer directement avec Emmanuel Macron pour exposer leurs doléances, comme l'explique Francis.
Notre volonté, c'est d'aller faire voir d'abord qu'il y a des gilets jaunes qui veulent le dialogue, qui veulent discuter dans le calme et dans la non-violence. Et puis, s'il y a cette volonté de la part du gouvernement, ben, la moindre des choses, c'est quand même au moins qu'ils nous reçoivent.
Un arrêté préfectoral interdit toute manifestation dans Grand-Bourg-Teroult. Alors l'idée d'une chaîne humaine tout autour de la ville séduit, notamment Hélène.
Pourquoi pas l'idée de la chaîne humaine ? Là où on pourra accéder au plus près, quoi. Qu'on vient pacifiquement et voilà, qu'on est là quand même.
Voilà, montrer qu'ils sont bien présents ici à Grand-Bourtereuld où les vitrines des commerces de la Grand-Rue sont déjà recouvertes par de grandes planches de bois, par précaution.
Merci à vous Jean-Gabriel Bourgeois. Alors Emmanuel Macron ira-t-il discuter avec des habitants lors d'un de ces bains de foule qu'il affectionne ? Tout dépendra de l'ambiance, indique l'Élysée.
Et vous posiez la question, David, est-ce qu'on sait si les Français vont avoir envie de se saisir de ce débat ?
C'est en effet tout l'enjeu pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Un récent sondage Opinionway affirme qu'un citoyen sur deux a l'intention de participer. Notre reporter Victor Dolande a trouvé une famille de Boulogne-Billancourt qui n'a pas attendu Emmanuel Macron chez eux. Le grand débat, c'est tous les soirs.
20h, l'heure du dîner familial chez les Cuazes. Un moment sacré pour se retrouver et discuter. En attaquant son pavé de cabillaud, Hugo, 14 ans, lance un débat sur la possibilité d'instaurer le vote obligatoire en France. Sa mère et sa sœur sont divisées.
L'histoire de le rendre obligatoire, en fait, je suis un peu partagée. C'est un peu antidémocratique, donc...
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, je pense que le vote devrait être rendu obligatoire. Je pense que c'est justement par le vote que les citoyens français peuvent exprimer leurs opinions.
Les sujets défilent, le référendum d'initiative citoyenne, la vie trop chère pour les étudiants, la transition écologique, sans oublier les impôts.
On ne peut pas vouloir avoir toutes les infrastructures qu'on a en France, et on a la chance de les avoir, et ne pas payer d'impôts.
Une heure passée en commun pour refaire la France, comme ils disent, et aussi apporter des idées nouvelles. Le beau-père Laurent souhaiterait notamment voir émerger dans le pays des indicateurs de bonheur.
Tout est basé sur combien d'argent on gagne. Et en fait, dans l'analyse du capitalisme, on voit que plus on gagne d'argent, moins on est heureux. Donc peut-être trouver des choses à mettre en place qui rendent les gens plus heureux, mais qui ne passent pas par gagner plus d'argent ou par s'épanouir plus dans le travail.
Autant d'avis qu'ils promettent de partager sur le site du Grand Débat.
Alors ce site internet qu'évoque Victor Dolande, il n'est pas encore ouvert. Il sera mis en ligne le 21 janvier, donc la semaine prochaine. Il y aura par ailleurs finalement 5 garants de l'indépendance du grand débat, 2 d'entre eux nommés par le gouvernement, les 3 autres respectivement par le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil économique, social et environnemental. L'identité de ces 5 sages ne sera connue que vendredi.
On en parle depuis 7h de notre matinale, c'est le jour J au Royaume-Uni. Les députés britanniques votent ce soir pour ou contre l'accord de Brexit négocié par Theresa May.
Oui, et partons tout de suite à Londres. Bonjour Sébastien Krebs.
Bonjour David.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. La première ministre, Sébastien, joue très gros puisqu'il est probable qu'elle n'obtienne pas la majorité.
Ah oui, l'inverse tiendrait du miracle. Si on en croit les unes de la presse ce matin, c'est même une défaite cuisante, une humiliation qu'elle risque bien de subir. Certains des membres de son gouvernement estiment qu'elle devra démissionner si le revers est trop lourd. Alors que va-t-il se passer ensuite ? Là, c'est beaucoup plus difficile à prédire. Théoriquement, en cas de rejet, Theresa May a 3 jours. 3 jours pour proposer quelque chose, un plan B. Peut-être espère-t-elle retourner à Bruxelles, négocier un petit ajustement et retenter un vote ensuite. Peu probable en fait qu'elle en ait le temps. L'opposition travailliste envisage de déclencher immédiatement un vote de défiance au Parlement qui pourrait avoir lieu dès demain. Les conservateurs seraient alors forcés de choisir leur camp, soit sauver Theresa May, soit risquer de nouvelles élections. Le Brexit serait alors peut-être repousser le temps de les organiser, mais le problème serait-il résolu pour autant ? Rien n'est moins sûr. En sous-main, des députés pro-européens manœuvrent pour tenter d'obtenir un second référendum. D'autres poussent pour quitter l'Union coûte que coûte, même sans accord. Bref, l'horloge tourne et la Grande-Bretagne avance en plein brouillard.
Merci à vous Sébastien Krebs, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres et vous allez suivre pour Europe 1 ce moment historique au Royaume-Uni.
L'affaire Carlos Ghosn et ses conséquences pour l'alliance Renault-Nissan.
Oui, on en sait un petit peu plus ce matin grâce à cette exclusivité Les Échos Europe 1. Une interview avec Hiroto Saikawa, le patron de Nissan. Écoutons-en un extrait.
I cannot imagine.
Je ne peux pas imaginer l'avenir de Nissan sans alliance. Nous devons travailler pour cela. Nous devons la rendre plus stable et durable. Nous travaillons dur pour cela avec nos partenaires.
Bonjour Nicolas Barret.
Bonjour David.
Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos et vous rentrez tout juste du Japon puisque c'est vous qui avez réalisé cet entretien. Alors on vient de l'entendre Nicolas, tout va bien. L'alliance doit perdurer, mais enfin franchement on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout des arrière-pensées de la part du patron de Nissan ?
Vous savez David, il y a d'abord une conviction, c'est que cette affaire prouve que la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme était néfaste. Et ce qui a manqué, ce sont des contre-pouvoirs. Quelqu'un chez Nissan m'a dit, vous savez pourquoi Carlos Ghosn était plus puissant que n'importe quel patron, ben parce qu'à tout moment, il pouvait brandir sa carte « Je représente votre premier actionnaire » et hop, le débat était clos, il n'y avait plus de discussion. Donc oui, il faut rééquilibrer les choses, alors pas forcément en changeant l'actionnariat tout de suite. Vous savez que Nissan possède 15% du capital de Renault, mais zéro droit de vote. C'est un problème, mais qui peut être traité plus tard. Ce qu'il faut surtout, c'est que pour que cette alliance fonctionne, c'est qu'on respecte l'autonomie de chacun. Il ne doit pas y avoir un partenaire qui soit aux ordres de l'autre. Et en fait, Saikawa, le patron Nissan, se donne du temps. Mais oui, son objectif de long terme, c'est bien que les relations entre les deux soient plus équilibrées. Et côté français, beaucoup commencent à en avoir conscience.
Justement, Nicolas Barré, est-ce que vous attendez des réactions de la part de Nissan après cette interview ? De la part de Renault après l'interview ?
Oui, probablement, et surtout depuis qu'on a appris que Carlos Ghosn ne serait pas libéré sous caution. Et ça, je pense que ça peut accélérer les choses effectivement à la tête de Renault.
Merci à vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.
Europe 1.
À suivre dans le journal, une journée très importante à Bruxelles. Le procès de Mehdi Nemmouche, le terroriste présumé, aura la parole cet après-midi. On vous dit tout. À tout de suite.
Il est 8h09, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Direction Bruxelles avec le premier temps fort du procès de Mehdi Nemmouche, David Doucan.
Oui, je vous rappelle qu'il est jugé pour l'attaque du musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014. 4 personnes avaient été assassinées. Ce matin, les avocats de la défense vont présenter leur stratégie et ensuite c'est Mehdi Nemmouche qui sera interrogé par le tribunal. Isabelle Horry.
C'est le moment qu'attendent et appréhendent en même temps les proches des victimes. Les familles espèrent que Mehdi Nemmouche va finalement s'expliquer. Elles aimeraient des aveux, des informations sur des complices éventuels, des commanditaires ou sur l'existence de liens avec les terroristes djihadistes qui ont frappé ensuite à Paris et encore à Bruxelles. Ça fait des semaines que les avocats de Nemmouche promettent que le Français de 33 ans va donner sa vérité devant les assises. Malgré un acte d'accusation accablant, eux clament toujours l'innocence de leur client, impassible dans le box depuis le début du procès. Il a été arrêté avec des armes, avec un ordinateur contenant une vidéo de revendication, avec des vêtements identiques à ceux du tueur filmés par les caméras de surveillance. Ses défenseurs balaient tout cela. Tout s'explique, selon eux, par un complot des services secrets israéliens. Le Mossad aurait visé le couple israélien tué dans l'entrée du musée. Une théorie fumeuse, des allégations invraisemblables fulminent les parties civiles. Elles veulent croire que devant le jury, tout à l'heure, Mehdi Nemmouche dira sa vérité, mais surtout la vérité.
À Bruxelles, Isabelle Horry pour Europe 1. Concluons ce journal, mon cher Nikos, en parlant du Paris Saint-Germain. Les joueurs parisiens sont actuellement à Doha, au Qatar, un voyage promotionnel chez l'actionnaire, mais avec tout de même des entraînements pour préparer les prochains matchs. Et alors vous avez, Nikos, hier, réalisé l'interview du capitaine du PSG, Thiago Silva.
Et c'est rare qu'il se confie, Thiago Silva. Nous avons parlé de Neymar, d'Mbappé, mais aussi du Qatar, où se déroulera en 2022 la prochaine Coupe du Monde. Doha est d'ailleurs en plein travaux. Confirmation avec Thiago Silva.
C'est une ville incroyable, bien sûr qu'il y a beaucoup de travaux encore, mais les stades sont presque prêts pour le Mondial déjà, ils sont beaucoup avancés. Je suis sûr que pendant la Coupe du Monde va être magnifique.
Vous évoluez aux côtés de Neymar depuis un an, comment il est dans l'intimité? Vous le conseillez? Est-ce que vous êtes un peu une sorte de grand frère pour lui?
Oui, je me sens grand frère, on essaie de parler souvent. C'est un jeune joueur encore, 26 ans pour le foot, c'est jeune. Malheureusement, la saison passée, il s'est blessé.
Il avait été blessé.
Avant le Mondial. Là, c'était un peu difficile pour lui, mais je crois qu'il a revenu le grand Neymar au top niveau.
Ce duo, Kylian Mbappé, Neymar, ça marche? Comment est-ce qu'on construit le lien, justement, et l'échange pour que ça marche?
Je crois que ce n'est pas trop difficile de mettre tous les deux à jouer ensemble. Ils sont deux joueurs très grande qualité, deux joueurs très intelligents. Kylian, il vient de faire 20 ans et... Mais ça semble qu'il avait déjà 27, 28 ans. C'est un mec qui vraiment il a une grande qualité pour être le numéro 1 du monde aussi comme Neymar. Et je crois que tous les deux ensemble, ils peuvent faire des choses incroyables.
Le roi Pelé, votre compatriote, aime beaucoup Kylian Mbappé. Il l'a salué. Comment est-ce qu'on devient un mythe dans le foot, Thiago?
De faire un peu presque comme l'a fait Pelé. il a tout fait. Pour moi, Neymar... Kylian, il peut venir comme Pelé, par exemple. S'il continue comme ça, avec cette progression, avec cette humidité-là, je crois que c'est possible.
Bon, la question que toute la France se pose, c'est est-ce que ça va être enfin l'année du PSG en Ligue des Champions?
Une chose, je peux t'assurer qu'on a l'envie de gagner. Après, dans le foot, tu ne peux pas assurer. Tu dois juste travailler, d'être prêt pour le match.
Merci beaucoup, Thiago Silva. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin.
Merci.
Et voilà pour cette interview avec Thiago Silva, le capitaine du PSG. On se réjouit, Nikos, qu'il soit bien concentré sur les prochaines échéances de la Ligue des Champions. En tout cas, personnellement, je m'en réjouis. Un mot du Mondial de handball, rapidement. C'est la quatrième journée de la phase de groupe ce soir. La France affronte l'Allemagne. Coup d'envoi, 20h30.
Match important, c'était le journal de David Doucan.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h13, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Herbouet.
Et on a vu les images partout sur les chaînes info. Cesare Battisti, en Italie, l'ancien terroriste a été transféré en prison pour y purger sa condamnation à perpétuité.
Bonjour Nikos.
Bonjour.
Vous avez vu son arrivée, hein, cette vedette, le Falcon immaculé, la centaine de photographes, le balai des uniformes, les ministres face aux caméras. Ça ressemblait, l'émotion en moins, au retour des otages, scène culte en France. Et puis Battisti, sans menottes et sans bagages, l'air reposé et pour cause. Pour la première fois depuis 37 ans, il a dormi tranquille, sans crainte d'être arrêté. Il avait un petit sourire aux lèvres, c'est un grand acteur. Il a joué tous les rôles, le voyou, le révolutionnaire, l'écrivain, l'innocent, l'ami des princes, la victime. Et là, c'était l'exilé qui rentre à la maison. Il était à jeun, il était parfait. Évidemment, le réveil ce matin dans la cellule en Sardaigne où il va vieillir, c'est le clap de fin. Mais pour d'autres aussi, est finita la comédia.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, la fin de cavale révèle le cynisme du monde moderne, comme dans les films à sketch du cinéma italien, les monstres ou les nouveaux monstres. Prenez la Bolivie, qui a livré Cesare Battisti. Il avait demandé l'asile politique. Le dossier n'a même pas été ouvert. Il n'a pas non plus été extradé, car il aurait fallu le renvoyer au Brésil et la police italienne était pressée. Il a donc été traité comme une personne en situation illégale, faisant l'objet d'une sortie obligatoire. José Bové s'en est indigné de cette trahison, fin de l'illusion lyrique et de la révolution bolivarienne. La vérité, c'est que la Bolivie privée de pétrole vénézuélien est prête à tout pour se rapprocher du grand voisin brésilien.
Non mais pendant sa campagne, le président brésilien avait promis de l'arrêter et de le livrer surtout.
Oui, alors Jair Bolsonaro est frustré car le Falcon cellulaire n'a pas fait escale à Brasilia comme prévu. Cette humiliation, c'est la première déception de son règne. La classe politique italienne aussi est frustrée. Elle applaudit unanime l'arrestation. Mais Matteo Salvini applaudit plus fort et il est debout sur la table. Il cogne dur sur la France qui a protégé Battisti, ses présidents complaisants, sa gauche caviar, aveugle et arrogant, qui ont pris un lâche pour un combattant de la liberté et l'Italie pour un pays du tiers-monde. Alors, il veut l'extradition des terroristes qui ont été condamnés, qui vivent en France, dans ce pays qui donne des leçons de morale, de solidarité, de générosité. Tragédiente, comédiente, l'arrestation de Battisti, c'est pas la fin du film, c'est le début d'un feuilleton.
Ils sont une bonne quarantaine selon le Corriere della Sera.
Oui, en liberté, et même une centaine selon d'autres sources.
Vincent Hervouette, le point de vue international, c'est tous les jours sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 8h16.
Qui allez-vous inviter dans quelques instants, André Crespo-Marin ?
Bonjour Nikos, bonjour à tous. C'était à elle que revenait la difficile mission de convaincre les Français que la hausse des prix des carburants était faite pour des raisons écologiques. Et c'est à elle que revient la difficile mission d'animer le grand débat national. Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique, sera mon invité.
A tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h18, Nikos Aliagas.
L'interview politique avec vous, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour.
Secrétaire d'État à la transition écologique, vous allez animer le grand débat national, on va en parler après cette interview. Vous partez dans l'Eure, rencontrer des gilets jaunes à Bernay, avant de rejoindre le président à Grand-Bourterroule, où 600 maires l'attendent. Vous redoutez la rudesse des échanges ?
L'expérience que j'ai des discussions avec des personnes qui portent des gilets jaunes, c'est à la fois qu'en général, l'échange est vif, parfois difficile, mais que quand on a le temps et qu'on commence à rentrer vraiment dans les sujets, là, l'échange devient très souvent constructif et plus apaisé.
Alors, vous allez animer le grand débat national. Tout le monde avait l'air d'accord pour dire qu'il ne fallait pas qu'un ministre s'en occupe de ce grand débat. Ça jette immédiatement un doute sur l'indépendance du débat.
Mais moi aussi, je suis d'accord pour dire que le grand débat ne peut pas être placé sous le contrôle de ministres ou du gouvernement. Et c'est pas ça que nous faisons. En réalité, dans la période précédente, la CNDP, la Commission nationale du débat public, jouait deux rôles. Organisation et mobilisation d'un côté, garantie du processus de l'indépendance, de la restitution de l'autre. On sépare ces deux rôles.
Voilà, Chantal Jouanneau, on disait qu'elle devait piloter le débat et vous, on dit que vous devez l'animer. C'est quoi la différence entre piloter et animer le débat ?
C'est ce que je vous dis. La différence, c'est qu'on sépare deux rôles. Tout ce qui est garantie, neutralité, impartialité, qualité de la restitution est placé sous le contrôle de garants, cinq garants
dont on connaîtra l'identité vendredi. Vous pouvez pas nous en révéler là.
Deux nommés par le gouvernement, trois nommés par les présidents de chaque assemblée, Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique, social et environnemental. On aura leur identité vendredi. Et puis Sébastien Lecornu et moi, nous sommes en charge à la fois de l'organisation opérationnelle, mais un peu comme l'État quand il organise des élections, et aussi la mobilisation de tous, parce que l'un des enjeux, c'est que les Français participent à ce débat.
Mais concrètement, vous allez vous rendre dans des réunions locales, dans des réunions régionales, comment ça va se passer ?
Concrètement, nous serons les interlocuteurs des maires qui souhaitent organiser des débats mais qui ne savent pas forcément toujours comment faire, à la fois dans l'organisation matérielle, dans l'animation, des associations qui souhaitent participer au débat pour susciter des réunions, pour susciter des contributions et être sûr après, avec les garants, que tout ceci sera bien pris en compte.
Donc vous allez faire en sorte que le débat prenne et que les initiatives prennent, c'est ça ?
Exactement, on va faire en sorte...
Sans pour autant vous rendre dans les réunions.
Je pense que je participerai à un moment à des réunions, mais pour l'instant, mon objectif, c'est vraiment plutôt d'aller rencontrer des associations, par exemple, ou même des citoyens qui cherchent à organiser des débats et qui se demandent comment faire.
Emmanuel Wargon, 8 Français sur 10 sont favorables au rétablissement de l'ISF, et pourtant, Emmanuel Macron a déjà prévenu qu'il ne serait pas rétabli. Alors à quoi bon en débattre ?
Dans sa lettre, le président de la République a posé la question de la justice fiscale et sociale. Et donc la question de comment avoir un système le plus juste possible, elle est bien au débat. Après, l'ISF vient d'être réformé. Nous avons dit que nous attendons de voir comment cette réforme fonctionne avec l'évaluation de la réforme. Et donc que l'objet ISF, qui a été transformé en un nouvel impôt qui s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière, nous ne reviendrons pas sur cette réforme dans les mois qui viennent. Mais il y a d'autres manières de traiter la justice fiscale.
Et pourtant, une majorité de Français est favorable au rétablissement de l'ISF. Donc aucun référendum n'est prévu là-dessus, par exemple. Il n'est pas question de revenir dessus.
Il n'est pas question de revenir dessus dans un calendrier court. On attend l'évaluation.
Et concernant la réindexation des pensions de retraite, c'est une revendication qui revient aussi beaucoup. Vous pourriez revenir dessus ?
Là aussi, la lettre du président est ouverte. Elle a d'ailleurs dit qu'il n'y a pas de question interdite et elle pose la question de quel est le bon pacte social. Je pense que la question des retraites, qui d'ailleurs fait l'objet d'un débat parallèle, si je peux dire, puisque le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, travaille actuellement sur la réforme des retraites, la question globale des retraites est posée.
Emmanuel Wargon, même si Chantal Jouanneau a démissionné, la CNDP a publié un rapport dans lequel elle déconseille fortement de fixer des lignes rouges à ne pas franchir dans ce débat. Alors vous allez malgré tout fixer des lignes rouges ?
La CNDP a dit deux choses. Elle a dit c'est important de cadrer le débat et il faut éviter les lignes rouges. Le cadrage du débat, il a été fait dans la lettre du président de la République. Elle est ouverte, très ouverte même. Il y a quelques points sur lesquels le gouvernement a annoncé, et c'est aussi une posture d'honnêteté, que sur certaines réformes, on n'y reviendrait pas, en tout cas pas tout de suite.
Vous pensez à quoi précisément ?
C'est ce dont on parlait, l'ISF essentiellement.
Alors, il y a Benjamin Griveaux aussi a dit qu'il n'y aurait pas de débat sur la peine de mort, l'avortement, le mariage pour tous. Donc ça, ce sont des lignes rouges.
On est dans un pays libre, les gens débattront de ce qu'ils souhaitent débattre.
Et si on vous peut réunissez... plus prononcer le mot ligne rouge, j'ai l'impression.
Si vous réunissez des gens dans une salle, ils parleront de ce qui leur paraît important. Après, encore une fois, la CNDP l'a dit, c'est bien de cadrer le débat. Ce débat, il concerne 4 thèmes et ils sont déjà très larges. Donc ce n'est pas un exercice de débat ou de consultation sur d'autres sujets.
À partir du 1er mars, les propositions recueillies au cours des premières semaines de débat seront examinées par des conférences citoyennes régionales composées en partie de citoyens tirés au sort. Emmanuel Wargon, comment, quand aura lieu ce tirage au sort et de quelle manière sera-t-il organisé ?
Alors, c'est une proposition qui avait été regardée aussi avec la CNDP. On est en train de regarder les conditions pratiques, de voir comment on peut faire ce tirage au sort.
Donc il n'est pas prévu pour l'instant ?
Il n'est pas encore organisé. Le principe en est posé. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des exercices de tirage au sort. Et donc il faut qu'on puisse répondre rapidement dans les quelques jours qui viennent. Typiquement, vous voyez, c'est le rôle de Sébastien et de moi de proposer
Sébastien
les modalités...
Sébastien Lecornu qui est chargé du territoire au gouvernement.
De proposer les modalités du tirage au sort et de les proposer au garant pour qu'il puisse nous dire si les modalités prévues de tirage au sort répondent à toutes les garanties nécessaires.
Donc si on est tiré au sort, pourra-t-on refuser cette responsabilité ?
Oui, bien sûr, on pourra refuser. Personne n'est obligé d'aller participer à un débat.
Un dédommagement financier est-il prévu ?
Pas à ce stade, pas à ma connaissance, mais l'une des questions qu'on se pose, c'est quelle est l'échelle régionale du tirage au sort ? Parce qu'on dit que ce sont des réunions régionales, mais parfois les régions sont très grandes. Donc peut-être qu'on aura une réunion dans chaque région, mais avec un tirage au sort de proximité, c'est-à-dire à l'échelle d'un département. Vous voyez, ce sont ces types de questions très concrètes qu'on se pose.
Et si une proposition est votée par une conférence régionale, le gouvernement pourra-t-il refuser de la mettre en œuvre ? Puisque c'est sous l'égide de Matignon, hein, ça reste, le délégué Édouard Philippe l'a précisé, sous l'autorité du Premier ministre ce débat.
Le gouvernement, l'État, organise ce débat. Donc l'organisation matérielle, le succès de l'opération, est, que nous espérons tous, est sous la responsabilité de l'État.
Mais
nous,
si une proposition est votée...
J'essaye de répondre. Nous avons 13 conférences régionales, peut-être d'ailleurs une 14e thématique sur le thème de la jeunesse, parce que je pense que c'est très important aussi que les jeunes participent au débat. Il faudra aussi voir si les 13 ou 14 conférences proposent la même chose ou pas, c'est pas sûr. Et c'est toute la question de comment est-ce qu'on travaille à la restitution et à l'un des points que disait Joseph Spiegel tout à l'heure, comment est-ce qu'on co-construit après nationalement des réponses à partir de tout ce qui aura été dit.
Le président, avant de se rendre dans l'heure, a envoyé, en tout cas virtuellement, on en a eu connaissance dans les médias et sur Internet, une lettre aux Français. Il a prévu de l'envoyer par voie postale ?
C'est envisagé, oui, on travaille dessus.
Emmanuel Wargon, vous venez de la société civile. Quand vous avez accepté d'animer ce débat, notamment sur le pouvoir d'achat, vous ne vous êtes pas dit que vos revenus de l'an dernier chez Danone, 470 000 euros, risqueraient de poser problème ?
Alors, j'ai passé 3 ans dans une entreprise privée et pendant ces 3 ans, c'était une grande entreprise internationale, mon salaire était conforme au salaire des cadres dans ce type de fonction. Le chiffre de 2018 étant d'ailleurs un peu exceptionnel parce qu'il agrège 2 parts variables sur une seule année. Je sais que c'est un niveau de revenu important. Je n'ai gagné ces montants que pendant 3 ans. Le reste du temps, j'étais au service de l'État et fonctionnaire.
Et c'est un salaire qui est publié hein, sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc rien n'est dissimulé. Merci Emmanuel Wargon.
L'interview politique était présentée par Audrey Crespo-Mara. C'est tous les jours à 8h15 sur Europe 1.
Europe 1. Il est 8h27.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, la revue de presse avec David Abiker. Et en 1789, les cahiers de doléances des Français, ils disaient quoi ? Vaste question. David y répond dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1. Bonne matinée à tous.
Europe 1.
Dans la prochaine demi-heure, Nikos.
David Abiker pour la revue de presse. Quel est le maître mot de votre revue de presse ce matin ?
Allez, on va remonter le temps et on va remonter le temps dans l'heure.
Ah, pas mal, pas mal, j'ai compris. 8h40, s'il arrive chaud comme de la braise, le sale gosse du 7-9, Nicolas Canteloup sur Europe 1. Mais tout de suite, la météo.
Avec Laurent Cabrol, Nikos.
Et avec un temps globalement sec aujourd'hui.
Sec.
Globalement sec.
Nuageux mais sec.
Tout au plus quelques gouttes.
Il y a du soleil à Lyon, j'ai lu tout à l'heure sur Twitter.
Oui, il y aura quelques rayons de soleil sur Lyon, il y en a d'ailleurs. Et c'est une, disons, alors que dans le Rhône, en général, ce sera un peu plus difficile. Et les températures seront de saison. 4 à Épinal, 6 à Strasbourg et Nancy, 7 à Clermont, 8 à Lyon, 9 Besançon, Reims, 9 à Toulouse, Rennes, Paris, 9 à Lille, 10 degrés à Caen et Bordeaux, 11 à Biarritz, 12, même 13 degrés du côté de Marseille et 16 à Bastia. Alors globalement sec, disais-je, le mardi, pourquoi ? Parce que nous aurons sur la Bretagne, la Normandie, la Picardie, l'Île-de-France et les Pays de la Loire un temps certes souvent couvert, mais enfin avec parfois un rayon de soleil, mais pas plus, hein, qui va percer. Sur la Champagne-Ardenne et la Lorraine, ce sont 3 gouttes. Et puis dans le sud-ouest, alors qu'il y a pas mal de brouillard en ce moment, hein, dans certaines régions du sud-ouest, enfin de certains départements, dans tout le sud-ouest, sur le Limousin, l'Auvergne, les Alpes et le bassin méditerranéen, là on peut dire que le soleil va percer résolument. Sur la Franche-Comté et l'Alsace, ce sera voilé. Voilà, donc grosso modo, cette journée, il faut en profiter. Je disais, demain aussi, on va en profiter. Et ensuite, ça va vraiment se gâter en fin de semaine avec une baisse des températures.
Merci Laurent, on vous retrouve avant 9h.
Excellente matinée en ce mardi 15 janvier. Il est 8h30, toute l'actualité avec Nikos Aliagas.
Carlos Ghosn reste en prison. Le tribunal de Tokyo rejette sa demande de libération sous caution. Le patron de Renault est incarcéré depuis 2 mois pour des présumées malversations financières. Mesure de sécurité draconienne pour la venue d'Emmanuel Macron cet après-midi à Grand-Bourterould. Gilets jaunes et syndicalistes ont prévu un comité d'accueil. Le président vient lancer le grand débat qui va durer 2 mois, avant-goût des discussions parfois tendues hier à Nantes.
La famille Muliez, ils ont un pied en Belgique et ils vont travailler à Roubaix, prendre l'oseille. Ça, faut arrêter.
Il faut garder les riches en France. C'est eux qui dépensent ce pognon, qui nous font vivre un petit peu. Faut pas les faire partir.
Quand on parle économie, il faut déjà voir où il y a la fraude. Les arnaques aux dents, aux lunettes et tout ça.
Non, mais arrêtez les gars, vous n'arrêtez pas de couper, on peut pas en placer une. Écoute, si tu continues, moi je quitte la table parce que soit on s'écoute, soit on s'écoute pas.
Propos recueillis par François Coulon. Après l'explosion de la rue de Trévise qui a fait 4 morts, 12 immeubles restent inaccessibles. 150 personnes ont dû être relogées. Et dans le journal El País, le père de la touriste espagnole décédée dans l'explosion dénonce la passivité des témoins. Tout le monde était occupé à filmer et personne ne l'a aidé, dit le père de la victime. L'attentat contre le marché de Noël de Strasbourg était prémédité. Il avait fait 5 morts le 11 décembre dernier. Selon les premiers éléments de l'enquête, le terroriste Sherif Shekat avait cherché des armes depuis plusieurs semaines. Le Parlement britannique vote ce soir sur l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles. Si c'est oui, la sortie du Royaume-Uni est programmée pour le 29 mars. La première ministre Theresa May, qui craint une défaite historique, lance un appel aux députés conservateurs qui seraient tentés de voter contre.
La confiance du peuple dans la démocratie et dans ses représentants pourrait être ébranlée de manière catastrophique. Nous avons tous le devoir de mettre en œuvre le résultat du référendum.
Theresa May avec Anaïs Cordoba. Et puis, le mondial de hand à Berlin. La France l'a emporté hier face à la Corée, 34 à 23. Ce soir, les Bleus affrontent l'Allemagne. Coup d'envoi à 20h30.
Europe 1. Nico Seliagas, tout de suite on retrouve David Abicaire pour sa revue de presse.
Bonjour David Abicaire.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Alors puisque le président surnommé le maître des horloges se rend ce matin dans l'heure pour rencontrer des élus locaux et lancer le grand débat, on va feuilleter le courrier de l'heure et remonter le temps. Le courrier de l'heure, page 4. Grâce aux archives départementales, nos confrères ont eu accès au cahier de doléances de l'année 1789. Les Français y pointaient déjà une crise de société, une fracture entre les riches propriétaires fonciers et le corps productif méprisé, disait-il. Et dans le cahier de doléances du tiers-état du grand bailliage d'Évreux, c'est toujours dans l'heure, la question de la fiscalité revient 118 fois. On dénonce la mauvaise répartition de l'impôt, les privilèges fiscaux, la hausse des prix des céréales, il n'y avait pas de pétrole à l'époque. On réclame l'abolition de la gabelle et une nouvelle constitution. Également dans le collimateur, la cupidité des compagnies qui s'enrichissent au détriment des sujets. On s'en prend aussi aux mendiants qui cachent probablement des paresseux et des gourmands. Ben voilà, 2019 semble n'avoir rien inventé. Et le courrier de l'heure conclut qu'en 1789, les cahiers de doléances du département furent une réussite, organisés de façon exemplaire. Et ben, 230 années plus tard, voilà qui met la pression au président et aux organisateurs du grand débat national.
Et ce matin encore, beaucoup d'interrogations sur le grand débat à la une des journaux, David.
Ah oui, la presse questionne encore la raison d'être du débat, critique son organisation, se fait l'écho des états d'âme des élus locaux, de la défiance, des gilets jaunes. Les éditorialistes s'interrogent sur l'ouverture d'une boîte de Pandore, tel Philippe Marcassi dans l'Est républicain ou Stéphane Siré dans Paris-Normandie qui redoute un Capharnaüm, autrement dit une grande pagaille. La presse se penche sur la lettre envoyée hier, la décortique, la décrypte, tente de lire entre les lignes, on craint l'arnaque. Lettre de Macron, les messages cachés, titre la Dépêche du Midi. L'opinion parle des non-dits du président et sur l'Europe et sur la PMA pour les femmes en couple ou tout simplement sur les intentions dissimulées de ce courrier, chassé sur les territoires de la droite avec l'immigration. Même si Sud-Ouest et les dernières nouvelles d'Alsace et le courrier Picard font la une sur le mode d'emploi du débat, il y a des interrogations sur le fond, sur la forme. C'est à croire que le pays redoute le débat tout en ayant envie du débat. On veut un débat, mais dès qu'il est là, personne ne se met au premier rang et il faut patienter de longues minutes pour que la première question soit posée. C'est ça aussi les contradictions françaises.
D'autres contradictions également dans la presse, notamment dans le journal Libération.
Celle qui conduit Chantal Jouanneau à refuser de piloter un débat la semaine dernière, a en critiqué l'organisation hier dans un rapport rendu public, tout en restant à la tête de la Commission nationale du débat public, même si la critique des modalités du débat est argumentée, ça risque d'échapper un peu au bon sens des Français. Et puisqu'on évoque Chantal Jouanneau, le site Les Jours soulève une nouvelle fois le sujet de la rémunération de celle qui va piloter le débat et qui est Guittet, reçu dans ce studio il y a quelques minutes, pilotait le débat à la place de Madame Joanneau, Emmanuel Wargon, qui a perçu du groupe Danone plus de 475 000 euros net sur 9 mois en 2018, rappelle les jours avant de rejoindre le gouvernement. N'est-ce pas trop pour débattre avec la France des bas salaires? Et là, on peut se poser deux questions. Faut-il indexer la légitimité du poste sur le salaire, qui plus est un salaire d'autrefois? Faut-il ensuite se désoler qu'une femme ait tant gagné dans un poste à responsabilité, alors que l'on se désole à longueur de temps que les femmes n'accèdent pas à de tels niveaux de responsabilité et de rémunération? Là encore, la France n'est pas au bout de ses contradictions, surtout quand il est question d'argent.
Justement, on va finir avec les pages économiques du Figaro, David Abiker.
Où l'on apprend, Nikos, que le MEDEF s'est trouvé une raison d'être. Tiens, tiens. Agir pour une croissance responsable. À quoi servait-il avant, ricaneront ses opposants. Le Figaro nous explique pourtant que le MEDEF s'aligne sur la loi Pacte examinée demain au Sénat. Cette loi incite les entreprises à écrire dans leur statut leur raison d'être. On est là pourquoi? Qu'est-ce qu'on fabrique en ce bas monde? Que peut-on faire pour la société, pour l'environnement quand on est une entreprise? C'est quoi ma raison d'être? Tout le monde peut se poser aujourd'hui la question, pas seulement les entreprises. Un salarié qui se demande pourquoi il travaille dur, le gilet jaune qui peut lui se demander pourquoi il n'a pas de boulot ou pourquoi son boulot paye si mal, le commerçant qui se dit mais c'est quoi ma raison d'être si je travaille pour gagner des, pour payer des impôts et des charges dès le 15 du mois? Et si le grand débat avait pour ambition de répondre à cette question. Quelle est la raison d'être d'une république moderne? C'est quoi notre raison d'être ensemble sur ce petit territoire hexagonal? Nous, Français, nous avons 2 mois pour trouver les réponses.
Bravo! J'ai beaucoup aimé votre revue de presse ce matin. Vraiment, la revue de presse de David Abiker, c'est tous les jours à 8h30.
Europe 1, et il est 8h37.
Ne bougez pas, il arrive dans une poignée de secondes pour mettre le bazar, l'insortable Nicolas Canteloup et sa revue de presse sur Europe 1.
Il est 8h39.
Nicolas Canteloup et Julie transforment la grisaille en quelque chose d'ensoleillé qui fait du bien. C'est la revue de presse et c'est sur Europe 1 seulement. Et ça commence maintenant.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actu avec Nikos.
Et oui, ma chère Julie, mais avant, bienvenue sur Europe 1 sous ce soleil de grisaille qui nous réjouit chaque matin. Un petit café?
Ça t'a plu ça, hein?
Un petit café.
Oui, vous l'avez compris, je suis poeteur, journalisteur, animateur et serveur en terrasse. Le title Surround, c'est Emmanuel Macron qui lance ce matin, nous l'avons dit, le grand débat à Bourtrould. Ah pardon, à Grand Bourtrould. Lieu où visiblement personne n'a jamais débattu du nom de la commune. Il y aura aussi un lieu de débat virtuel où chaque Français pourra donner son avis. Incroyable, le gouvernement vient d'inventer quelque part Twitter. Lolo Cabrol, un point météo, très vite, on met des bas ce matin avec Anissé Mbiba.
Oh, Miba, Anissé Mbiba, bravo.
Bravo, oui. Alors, c'est pas mal, Anissé Mbiba, bon. Qu'est-ce qu'il me raconte encore? Écoutez, par contre, je vous invite à profiter de la journée d'aujourd'hui. Hein. Il fera gris et froid sur Paris, donc profitez-en parce que c'est la meilleure journée de la semaine, hein, je vous le dis. Semaine prochaine, c'est la neige, perhaps.
Alors,
je conseille. Oui, j'ai parlé anglais ce matin, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc je conseille le PPPP, hein, le parapluie, perhaps, par précaution. Voilà.
Dites donc, ça donne la pêche.
Well done.
C'est la fin du Brexit, mais moi je me mets à l'anglais.
Hier, Emmanuel Macron a reçu des maires ruraux à l'Élysée. Nos équipes étaient sur place.
Voilà. Messieurs, s'il vous plaît, un petit peu d'ordre. Voilà, entrez. Entrez dans mon bureau, voilà. Non, par contre, s'il vous plaît, vous enlevez vos sabots. Voilà, tout ce qui est les bottes pleines de terre, sabots, voilà. Vous laissez sur le perron en vous remerciant. Voilà. En tout cas, merci d'être venu de si loin depuis vos campagnes. Écoutez, avant de commencer, je propose, hein, tout le monde est d'accord, on est tous en chaussettes, c'est parfait. Je propose qu'on ouvre. On ouvre une fenêtre, que chacun se brosse les dents, on va faire le protocole.
Hein,
Ok, ça a été fait. Très bien. Alors, monsieur, donnez le micro, monsieur qui veut commencer. Monsieur Moustachu, je vous écoute, monsieur.
Oui, mais merci, Monsieur le Président. Je me présente, José Bevé, je suis membre de la Confédération Paysanne. Je soutiens la ruralité, notamment, je crois que vous êtes interpellé avec les maires et les communautés rurales, pour aussi avec un particulier du bon monde agricole, les fournisseurs qui est monté avec l'échelon local pour mieux équitable, les tomates qui ont monté les producteurs de navets à bord de terre, qui vont faire qu'un point avec cri de l'amour est dans le pré.
Alors, monsieur, est-ce que l'huissier peut... Est-ce que... Oui, monsieur l'huissier, s'il vous plaît. Je crois que monsieur a un problème de micro. Est-ce qu'on peut régler ça?
Non, mais pas du tout. Pas bien foncé. Il n'y a pas de problème de micro. Je tiens à dire, en répéter, que voir le monde rural délaissé. Bon, monsieur, vous ne pouvez pas mettre les mains en cambouis, venez à la ferme pour voir des cartes de l'alcool de pommes de terre.
Bon, décidément, on a un problème de micro avec monsieur. Oui, pas seulement. Oui, un micro. Problème de micro, de dents, de moustache et d'éducation. Alors, est-ce qu'on peut régler ça? On peut pas... Non, alors, donnez le micro, monsieur l'huissier. Donnez le micro à un autre intervenant. Qui? Le grand monsieur là-bas. Allez-y, monsieur, exprimez-vous.
Bonjour. Ah. Bonjour, monsieur Macron. Oui, 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 vous avez l'œil qui frise. Vous me reconnaissez, Jean Lassalle. Nous nous sommes croisés furtivement lors du débat entre candidats présidentiels, car nous sommes sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Depuis, contrairement à vous qui avez investi un palais, moi je suis retourné aux sources, à la terre, au terroir, dans ma forêt, où j'organise au quotidien, monsieur Macron, des débats citoyens participatifs entre champignons, lichens, poneys et limaces. Je suis venu avec une représentante de nos campagnes, une citoyenne qui a droit à la parole, qui a une question à vous poser. Je t'en prie, attendez un instant, Floriane. Je te passe le micro. Parle au monsieur, nous t'écoutons. Est-ce que monsieur Macron... Répète, Floriane, répète. Monsieur Macron, vous entendez la colère du peuple? Ne vous dérobez pas, monsieur le président de la République.
Oui, d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai entendu. Je suis heureux de vous avoir vu. Que chacun ait pu défendre son point de vue, voilà. Donc maintenant, bah écoutez, on remet son chapeau de paille, on reprend sa fourche et puis on remonte sur son tracteur. Et puis on se dit à l'année prochaine, hein. Merci, au revoir à tous, au revoir. Au revoir, à vous Julie.
Eh ben dites donc, ça va pas être simple, hein, monsieur le président. Le procès de deux policiers accusés de viol s'est ouvert hier à Paris. Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour, bonjour à vous-même ainsi qu'à toute la brigade de votre radio matinale.
Mmh. Alors, ces deux policiers auraient abusé d'une femme dans les locaux du 36 Quai des Orfèvres. Cette jeune femme est une touriste canadienne.
Tout à fait. Écoutez, je veux être très clair avec les personnels des forces de l'ordre, les personnels de police et de gendarmerie. Enfiler une Canadienne, si c'est une veste, c'est autorisé par règlement.
Oh non.
Si c'est une touriste égarée, non, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Elle va être compliquée cette année. Je me demande si j'aurais pas dû rester maire de Fort Calquier.
Allez, merci à vous, à bientôt. On va revenir sur la lettre d'Emmanuel Macron et on va en parler avec Nicolas Sarkozy. Bienvenue, monsieur Sarkozy.
Je vous t'en prie. Hein. Merci à vous de m'accueillir, moi. Hein.
Alors, vous avez lu la lettre d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy?
Mais bien sûr.
Bon.
Vous savez pourquoi?
Pourquoi?
Ben, vous le sachez. Bien sûr. Julie, Vandy,
oui.
Céline.
Vandy.
Oui, mais excusez-moi, il y a un W, on dit Vandy. Ça ne se prononce pas ou pas, ça se prononce Van.
D'accord.
Voilà. Écoutez, j'aime la littérature. Hein. Vous savez, j'adore liser. J'en avais une lettre, j'en avais moi-même écrivé une, de lettres aux Français,
ouais.
Et vous noterez, j'en avais écrivé une,
oui,
bah,
bon,
c'est simple,
alors,
composé. J'en avais écrivé
oui,
une.
Oui, d'accord.
Et comme il y a un S, on pouvait dire, j'en avais écrivé
oui,
une.
Oui, bon, monsieur Sarkozy, un commentaire sur la lettre d'Emmanuel Macron.
Déjà, première observation, au débeauté, comme le chat du même nom.
Oh, non, arrête.
C'est le comte de Pernod, je connais
oui, non, mais d'accord.
Non.
Allez,
vous savez,
on perd du temps, là.
Oui, peut-être qu'on perd du temps, mais moi, vous savez, Et Talleyrand disait allez lentement, je suis pressé. Là, je vous emmouche un coin. Hein, je vous emmouche un coin.
Ah, oui,
là.
Oui. Alors, la lettre.
D'abord, il n'y a pas de. On en parlait avec Apathy tout à l'heure, il n'y a pas de faute de français. On sent que sa femme est prof de français à Macron. Sinon, écoutez, le début est très bien. Français, française, mes chers compatriotes. Tout de suite, on est accro. Et moi, je vais vous dire une chose. Ça m'a donné envie de lire prochainement la suite.
Mais attendez, vous n'avez pas lu en entier encore ?
Bon, attendez, mais vous plaisantez ? J'adore liser, mais enfin, par petits bouts.
Attendez,
elle fait 6 pages quand même, la lettre à Macron. Donc, vous me reposez la question dans un mois et demi. Je suis invité par M. Ayagas à 7h45, je répondrai à ces questions.
Bon, bah écoutez, rendez-vous à ce moment-là, alors. Hein. D'accord, voilà. Merci, M. Sarkozy.
Je vous en prie.
Marine Le Pen a présenté, lors d'un meeting, sa tête de liste pour les européennes. Il s'agit d'un jeune homme de 23 ans. 23 ans seulement, il s'appelle Jordan Bardella. Bonjour, Jordan.
Bonjour, madame. Ouais, truc de ouf. Je passe à la radio. En plus, face à Nikos Aliagas.
Bonjour.
Je vous regardais dans Star Academy quand j'étais petit.
Ouais. Ma
mère, elle vous kiffe trop. Je peux la saluer ?
Bien sûr. Alors,
salut maman. Hein, je suis face à Nikos Aliagas.
Bonjour maman.
Jordan.
Bonjour.
Vous avez pris votre carte du FN à l'âge de 16 ans ?
Ouais. Ouais.
Ah bah, dis donc.
Ouais, j'ai tout de suite su que j'étais raciste. C'était comment vous dire, comme une évidence. À l'école, je m'étais rendu compte d'un truc, j'adorais dénoncer mes copains qui trichaient, mais juste que quand ils étaient noirs. Les autres, non, je m'en foutais. Mais quand un Renoir trichait, ça me rend dégueu dingue. J'avais envie qu'il soit exclu de l'école. Voilà, c'est là que ma conseillère d'orientation m'a dit « Jordan, t'aimes pas les étrangers ? T'as des notes catastrophiques, tu bosses pas, tu révises de rien, oublie le bac, inscris-toi au FN. Voilà.
Vous avez grandi dans le 9-3,
ouais,
c'est
comme,
ça
comme Kylian Mbappé. On est tous les deux des précoces, quoi, des surdoués. Vraiment, quel dommage qu'ils soient africains, parce qu'on aurait pu être des super potes.
Oui, bon, bah, c'est bon. Hein. Merci, ouais. Jordan. Merci,
okay,
à bientôt.
Okay.
Parlons un petit peu d'autre chose que du grand débat. Arnaud Montebourg a ouvert une école, figurez-vous, une école d'apiculture. On va appeler cette école, tiens.
Ah.
Salut les jeunes! Vous aimez les abeilles? Tous nos nonos sont déjà en ligne. Rejoignez un secteur en pleine expansion, le miel. La Nono Miel High School vous propose des formations diplômantes. CAP en miel de région, BTS en gelée royale, doctorat en pollen et nectar de campagne. Alors, rejoignez-nous et soyez heureux, soyez happy, soyez apiculteurs. Ne quittez pas, un nono va vous répondre. Allô, Arnaud Montebourg, j'écoute.
Monsieur Montebourg, alors dites-nous.
Je reconnais cette voix.
Ah, bah c'est bien. Dites-nous en plus sur cette école d'apiculture, qu'est-ce qu'on y apprend ?
Il y a une paye, c'est là, Julie, c'est ça. Julie, oh, bah alors, oui, écoutez, on parlera
bonjour,
en antenne
ouais,
de tout et de rien.
Alors,
mais je réponds à votre question pour vos auditeurs, je pense qu'on passe sur l'antenne d'Europe 1.
C'est ça, alors
oui.
Qu'est-ce qu'on y apprend ?
Alors, on y apprend tout, ma chère Julie. On a un professeur de tartine, très performant, qui nous explique aux élèves comment répartir efficacement le miel sur du pain sans que le miel tombe dans les trous de la tartine. Donc, on a un professeur de résistance à la douleur pour rester stoïque. Vous savez, quand on se fait piquer le lionf par une abeille.
Oui.
Nous avons également un enseignant de biologie.
Mm-hmm.
Parce que, vous savez, j'ai vu trop de cons essayer d'obtenir du miel en faisant copuler un bourdon et une ouvrière. Mais chacun sait, ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas comme ça, ben non.
Ben non, t'enfermes pas deux insectes dans une chambre d'hôtel avec du Barry White pour essayer de payer essayer de ressortir avec un pot de miel de 2 litres. Ce n'est pas la même substance, Aliagas.
Malheureusement.
Dites-moi, monsieur Montebourg, vous avez des étudiants pour l'instant ? Parce qu'elle est où, votre école ? Elle est à Dijon.
Elle est à Dijon.
C'est ça.
Elle est à Dijon et c'est un petit peu le problème de notre école. Pour être franc, ça ne se bouscule pas au portillon. Faut dire que j'ai la concurrence. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est l'implantation ? Je ne sais pas, mais nous avons la concurrence sévère. de l'université de la moutarde. Hein, mais en même temps, j'allais pas ouvrir l'université du miel à Plougastel. Hein, les étudiants seraient partis à l'école supérieure de la confiture de fraises. C'est, les grandes écoles, c'est concurrentiel.
Bah oui, comme vous dites, on vous souhaite bon courage, monsieur Mondour, en tout cas.
Happy, happy, soyez happy, culteur.
Ah oui, c'est magnifique.
Nicolas Canteloup et Julie, tiens, bah oui. Et les auteurs, effectivement,
Philippe
de la
Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange.
Merci, et c'est Nicolas Canteloup, salut, à demain.
Salut Nicolas.
Au programme aujourd'hui, Wendy Bouchard.
Cher Nico, juste un mot, première promotion de 12 candidats à Dijon, hein, mais école totalement gratuite. Voilà, pour votre info, parce que j'ai étudié le sujet par ailleurs.
Ah,
voilà.
Vous connaissez par cœur.
Quasiment, c'est pas le sujet du jour. On va donner la parole au maire, cher ami, ce matin, des élus au cœur du dispositif du grand débat national. Certains qui veulent jouer les facilitateurs du dialogue, mais sans porter la responsabilité de l'échec au cas où ça ne marche pas, justement. Alors, est-ce que vous soutenez votre maire à s'engager, à vous engager dans le grand débat? Eh bien, on vous donne la parole au 39-21. Puis à 10h, une émission santé pour vous, on va parler du foie qui est un organe essentiel, 500 fonctions vitales grâce à lui sont maintenues absolument. Quelle recherche pour lutter contre les différentes maladies du foie aujourd'hui? On fait le tour de la question avec un hépatologue qui est avec nous jusqu'à 11h.
À partir de 9h avec la plaisir, facilitatrice du décryptage, Wendy Bouchard. Il y aura la météo aussi à suivre et puis l'essentiel de la matinale.
Juste avant 9h sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 8h55 à suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nico Saliagas. Mais tout de suite, à météo, on retrouve Laurent Cabrol.
Et avec une nouvelle, ma foi, assez réjouissante, puisque nous avons un temps aujourd'hui qui sera calme, qui sera serein et surtout le plus souvent sec. Nous aurons quelques pluies, nous en avons eu près des frontières du nord et du nord-est, mais c'est tout. Les meilleures chances de soleil pour tout le sud-ouest, après les brouillards, sur les Limousins, l'Auvergne, sur les Alpes et sur le bassin méditerranéen où il y a encore du vent, mais c'est promis, c'est presque la fin. Et puis, sur le Poitou-Charente, un temps d'éclaircie, un ciel voilé sur le Rhône et la Franche-Comté, ce sera pas trop mal sur Lyon quand même, et un peu de grisaille sur Picardie, Normandie, Bretagne et région parisienne. Température entre 7 et 10 degrés.
Très belle matinée à tous en ce mardi 15 janvier. On revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Top départ pour le grand débat national. Emmanuel Macron est attendu cet après-midi dans l'heure pour donner le coup d'envoi. À quoi va-t-il ressembler concrètement? Y aura-t-il des thèmes proscrits? À 8h15, nous recevions la secrétaire d'État à l'écologie, Emmanuelle Wargon, chargée de copiloter cette grande consultation. On l'écoute.
Le cadrage du débat, il a été fait dans la lettre du président de la République. Elle est ouverte, très ouverte même. Il y a quelques points sur lesquels le gouvernement a annoncé qu'on n'y reviendrait pas, en tout cas pas tout de suite.
Vous pensez à quoi précisément ?
ISF essentiellement. Si vous réunissez des gens dans une salle, ils parleront de ce qui leur paraît important. Après, c'est bien de cadrer le débat. Ce débat, il concerne 4 thèmes et ils sont déjà très larges. Donc ce n'est pas un exercice de débat ou de consultation sur d'autres sujets.
Ce grand débat national sera donc posé dans le cadre fixé par le président de la République avec 4 thèmes, fiscalité, dépenses publiques, organisation de l'État, écologie ou encore citoyenneté. Mais pour Jean-Michel Apathy, une question essentielle manque à l'appel. C'était dans son édito à 7h40.
Il n'y a aucune question sur tadam, le pouvoir d'achat. Sans le gilet jaune, il n'y aurait pas de grand débat. Et il n'y a pas de question sur le pouvoir d'achat. C'est quand même un truc un peu lunaire, non ? Mais la question, si elle n'est pas posée par Emmanuel Macron, elle va être posée dans le grand débat, évidemment. Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC ou pas ? C'est ça la question. Ce débat, on le sait, il a été bricolé à la hâte pour répondre à la crise. Très bien, c'était sans doute ce qu'il fallait faire. Mais on ne peut pas chasser, quand on ouvre un vrai débat, les vrais problèmes. Et ça, Emmanuel Macron, il doit s'y préparer.
Et l'autre actualité du jour se passe au Royaume-Uni, qui attend aujourd'hui un vote décisif au sujet du Brexit. Les parlementaires doivent dire « yes or no » à l'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles. Mais les experts ne sont pas optimistes. Le scénario du no deal se profile. Et à la frontière, les douaniers s'inquiètent. Le Brexit pourrait créer des bouchons monstres et des pénuries. Écoutez l'un d'eux, c'était à 7h20, dans Europe 1 plus loin.
Si vous avez 10 000 camions par jour, comment vous voulez qu'un test soit pertinent avec seulement 89 véhicules? Franchement, j'aimerais bien en rire si ce n'était pas aussi tragique. Nous n'avons aucune confiance à ce stade. On est très inquiets. La préparation du no deal est beaucoup trop tardive. Et si la chaîne d'approvisionnement est rompue, ça va être un désastre pour l'économie.
La frontière, on pense évidemment à l'Eurostar et au tunnel qui relie la France à l'Angleterre. Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Céline Dacosta, à demain.
À demain, Nikos, avec grand plaisir.
Merci et bravo à toutes les équipes de la rédaction, aux équipes techniques aussi. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance quotidiennement. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Prenez soin de vous. Wendy Bouchard arrive avec le tour de la question et ça commence dans quelques secondes, Wendy.
À tout de suite, chers amis. Merci, Nikos. À demain. Europe 1.